Europe Matin Weekend.
Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien ce matin? Heureux de vous retrouver. Il fait froid, attention, couvrez-vous. La Valérie Darmon l'avait annoncé hier. Et bien en effet, il fait très froid ce matin. Alors comment pourrez-vous donner un peu de chaleur? Écoutez, approchez-vous de la radio, on va tenter l'expérience.
Il y a du soleil qui brille.
Christophe Maé. Et si on rajoutait Laurent Boulzy?
Le soleil d'or.
Bien, je vais remettre un petit peu de Jennifer, tiens. Voilà, on a fait le plein de vitamine D. Nous sommes le dimanche 5 décembre, dans 6 mois, c'est l'été. Soyez les bienvenus. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h, bon réveil à tous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et c'est Lénaïque Monnier qui vous informe. Première édition, bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les soignants dans la rue pour défendre l'hôpital public en pleine cinquième vague. Reportage dans ce journal.
Marine Le Pen appelle les électeurs LR déçus par Pécresse à la rejoindre. La candidate RN s'exprimait depuis la Pologne, nous y reviendrons.
Le foot et le Paris Saint-Germain qui calent à Lens. Excellente ambiance, mais match nul hier soir.
Dans la prochaine demi-heure, le pronostic de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes aujourd'hui. Mélanie Gomez et Julia Vignali nous aident à cire en nous faisant plaisir, tout un programme. Et à 6h20, la plaidoirie de Mathieu Noël. Ce matin, le clip de campagne d'Éric Zemmour. Mais d'abord, la tendance météo. Bonjour très chère Valérie Darmon.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Non, il n'est pas mort le soleil.
Ah, il est mort le soleil.
Voilà Nicoletta. Mais non, il n'est pas mort parce qu'il est très présent aujourd'hui. Et ah je bon ne plaisante pas. Effectivement, seulement depuis le Sud-Bretagne jusque sur l'estuaire de la Garonne. Sinon, partout ailleurs, c'est un temps agité, un temps humide avec des vigilances avalanches sur l'ouest des Pyrénées, de la neige en pleine façon ce poudrage sur la façade est et puis de très fortes rafales de vent sur les Landes à plus de 110 km/h.
Allez, on détaille tout cela dans 7 minutes. Merci Valérie, à tout à l'heure. Alors que la France traverse la cinquième vague, des rassemblements avaient lieu partout en France pour la défense de l'hôpital public hier.
Et réclamaient notamment l'arrêt des fermetures de lits dans les hôpitaux et de meilleures conditions de travail pour les soignants. Marion Gauthier a suivi le cortège à Paris. Il y avait des soignants, mais pas que. Beaucoup d'usagers également de la santé se sont mobilisés.
Ça suffit. En tête de cortège, sans blouse ni bannière, les usagers de l'hôpital de Mayenne qui ont appelé au rassemblement, faute de personnel soignant, des services ferment chez eux et les patients doivent se reporter sur l'hôpital de Laval, plus au sud.
Moi j'ai été hospitalisée deux nuits de suite pour des urgences, j'ai pris ma voiture et cinq minutes après j'y étais. S'il faut qu'on fasse 50 km pour aller se faire soigner...
Il y aura des gens qui feront 100 km.
Il y aura des gens qui feront plus de 100 km.
De toute façon, Laval n'est pas capable de répondre au département entier.
On met des vies en péril.
Alain Rondeau est maire du village de Jublin. 3h30 de route jusqu'à Paris pour ruminer son inquiétude.
Quand vous avez une personne qui fait un AVC, on sait que c'est 20 minutes de délai pour intervenir. Plus on va fermer les urgences, plus il faudra aller loin, plus on met les gens en danger.
Un sentiment d'abandon que Liliane est venue crier ici, partie du pays de Gex à la frontière suisse. Un désert médical, dit-elle.
C'est une immense colère et une peur aussi d'être confrontée à une maladie, un besoin urgent et qui ne sera pas satisfait.
Les manifestants réclament plus de moyens, plus de proximité. Une délégation a été reçue par un conseiller du ministère de la Santé hier soir, sans résultat.
Le reportage de Marion Gauthier pour Europe 1. Sur le front de l'épidémie, plus de 51 600 nouveaux cas de contamination détectés ces dernières 24 heures. Le Conseil de défense sanitaire se tient demain. Et côté vaccination, Olivier Véran a précisé qu'en une semaine, à peu près 10 millions de Français avaient reçu leur dose de rappel.
C'est donc Valérie Pécresse qui a été désignée candidate LR pour la présidentielle.
Oui, la candidate investie qui dit ce matin dans les colonnes du journal du dimanche vouloir tout réparer en France. Elle se sent également capable, dit-elle, de battre Emmanuel Macron.
Et on verra ce qu'en pense Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui est l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 à 10h.
Les Républicains qui seront privés de meeting Porte de Versailles la semaine prochaine en raison de la crise sanitaire. En revanche, pas de modification ni pour Éric Zemmour ni pour Jean-Luc Mélenchon, qui seront respectivement à Villepinte et La Défense cet après-midi.
Mais c'est gros dimanche politique. Marine Le Pen a également réagi à la désignation de Valérie Pécresse.
Oui, elle appelle les électeurs LR malheureux à la rejoindre. Autrement dit, s'adressant aux 31% qui avaient opté pour Éric Ciotti, la candidate RN qui était en Pologne hier avec une quinzaine d'autres partis pour avancer sur la création d'un nouveau groupe nationaliste au Parlement européen. Projet qui, Victor Chabert, avance mais à tout petit pas.
Oui, une déclaration commune, mais toujours pas de grands groupes nationalistes au Parlement européen comme le souhaitait Marine Le Pen. Pour des raisons avant tout pratiques, c'est très complexe administrativement à mettre en place sous cette mandature. La candidate du Rassemblement national a souligné les urgences qui renforcent, selon elle, la nécessité d'une union entre patriotes, la crise biélorusse, le pacte migratoire européen porté par la Commission, mais aussi la nouvelle coalition qui remplacera Angela Merkel en Allemagne dans quelques jours. Elle s'inquiète de la volonté des Allemands d'assumer le statut de pays d'immigration. Les leaders nationalistes se sont entendus sur plus de coopération. Ils vont avoir des réunions communes au Parlement européen et aligneront leur vote sur les questions de souveraineté et d'immigration. Ils ont également fixé un calendrier. Ils se rencontreront sous ce format désormais tous les deux mois. Prochain rendez-vous dans quelques semaines en Espagne.
Victor Chavert du service politique d'Europe 1.
Lénaïque, on a appris hier soir la mort de Pierre Rabhi. C'était une figure majeure de l'agroécologie.
Oui, un pape de la décroissance, auteur notamment d'un ouvrage Vers la sobriété heureuse, 430 000 éditions vendues notamment. Pierre Rabhi qui s'est éteint des suites d'une hémorragie cérébrale. Il avait 83 ans. Écoutez sa vision du monde. Il s'exprimait au micro d'Anne Sinclair. C'était sur Europe 1 en 2014.
Encore aujourd'hui, vous le voyez bien, que les gens s'entretuent, qu'on donne beaucoup plus d'importance aux armements qu'à la vie, qu'on détruit la planète à laquelle nous devons absolument la vie, etc. Donc il y a une espèce de démence de l'humanité. On ne peut pas détruire la Terre qui nous nourrit à coups d'engrais chimiques, de pesticides, etc. Ce que je constate, c'est que le paradigme de ce qu'on appelle la modernité, pour moi, paraissait une très grande imposture. Mettre en avant le bonheur de l'humanité, on s'aperçoit qu'on a complètement raté, disons, ce postulat, puisqu'aujourd'hui, même dans les pays les plus confortables, disons, riches, on bat les records de consommation d'anxiolytiques.
Pierre Rabhi au micro d'Anne Sinclair sur Europe 1 en 2014. Beaucoup d'hommages, notamment celui de Ségolène Royal sur Twitter. Hier, elle a salué un laboureur de la terre, laboureur de conscience. Pierre Rabhi néanmoins épinglé plusieurs reprises sur ses positions très conservatrices sur l'homosexualité et sur les femmes.
Alors, tout autre sujet, Lénaïque, vous faites peut-être vous partie des 50% de Français qui bricolent régulièrement. C'est la nouvelle passion française.
Alors, pas pour moi, mais pour beaucoup, effectivement. Et surtout, l'habitude est restée après le premier confinement. Maud Descamps, on dirait qu'en plus, c'est parti pour durer.
Oui, avec un chiffre d'affaires en hausse de 13% par rapport à l'an dernier, année qui était déjà exceptionnelle, le secteur du bricolage a le sourire et les bonnes habitudes prises par les Français s'installent durablement, observe Caroline Huppin, déléguée générale de la Fédération des magasins de bricolage, notamment grâce au marché de l'immobilier qui se porte particulièrement bien.
Il y a quand même une grande dynamique du marché immobilier. Donc, qui dit déménagement dit souvent travaux à la clé pour avoir un intérieur qui vous corresponde. Et tout ce qui va concerner la rénovation énergétique, qui est très portée par le gouvernement et qui amènera sans doute aussi de nouveaux clients. Donc, on reste quand même très optimiste.
Les Français ont en effet été nombreux à se lancer dans les travaux de rénovation énergétique cette année. Plus de 600 000 dossiers de demande du dispositif MaPrimeRénov ont été déposés. C'est 4 fois plus que ce que le gouvernement avait prévu, des travaux qui ont coûté plus cher qu'en 2020. Avec la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, le coût des travaux a augmenté, selon l'INSEE, de 4,8% cette année par rapport à l'an dernier.
Les précisions de Maud Descamps pour Europe 1.
Les sports et le PSG qui a calé hier à Lens.
Oui, score final 1-1 au stade Bollaert et on a presque envie de dire, Cyril de la Morinerie, que Paris s'en tire plutôt bien parce que les 100 euros ont presque failli gagner.
Oui, au terme d'un match spectaculaire, c'est l'équipe la plus généreuse qui a failli s'imposer. Lens, avec du cœur et de l'envie, poussé par son incroyable public, a mené pendant une demi-heure. Un but de Fofana à la suite d'une incroyable bourde du gardien parisien Keylor Navas. Son homologue lensois Jean-Louis Leca a quant à lui réalisé plusieurs parades avant finalement de s'incliner en toute fin de match. Bien sûr, la victoire était toute proche, mais l'entraîneur lensois Franck Haise retient avant tout le positif.
Il y a de la déception à l'intérieur, mais ce que je dois montrer, c'est pas ça, c'est une grande fierté de ce qu'ils ont fait. Je crois qu'on a montré une belle image du Racing Club de Lens, tout simplement, aussi bien sur le plan du jeu que sur le collectif, que sur l'état d'esprit, sur les attitudes.
A l'inverse, on a encore vu un triste PSG avec un Messi peu inspiré qui a touché le poteau. Mbappé, entré en cours de jeu, a été décisif sur le but de l'égalisation. Le club parisien s'en sort, encore une fois in extremis, et enchaîne un deuxième match sans victoire. C'est une première cette saison. Un pari inquiétant qui s'offre malgré tout un titre honorifique de champion d'automne.
Et Paris qui reste leader avec 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, battu hier au Vélodrome 2-1 par Brest qui remonte à la 6e place. Suite et fin de la journée aujourd'hui avec Saint-Étienne-Rennes notamment et sur Europe 1 ce soir, Bordeaux-Lyon.
Avec bien sûr Lionel Rousseau, c'était le journal de Lénaïque Monnier. À tout à l'heure
Lénaïque. À tout à l'heure.
Le temps de votre dimanche, Valérie Darmon, c'est important, encore de la pluie et du vent on va dire.
Eh oui, du Grand Est à Auvergne-Rhône-Alpes surtout jusqu'au sud-ouest. Hein. La journée qui se déroule sous un ciel couvert et pluvieux, neigeux sur le relief. Sur les Pyrénées, son piémont, les précipitations qui sont durables, marquées, qui vont donner d'importants cumuls de neige en montagne avec une limite plus neige vers 800 mètres à l'ouest et 600 à l'est. On a donc une vigilance avalanche sur l'ouest de la chaîne qui est maintenue. Sur le relief des Vosges, du Jura, des Alpes et du Massif central, la neige qui tombe vers 400 mètres d'altitude. Elle peut s'abaisser à plus basse altitude dans le nord-est et le centre, voire donner un saupoudrage de neige jusqu'en plaine, tandis qu'un bon enneigement est attendu sur les plateaux du Jura.
Valérie, à l'ouest, rien de nouveau ?
Rien de nouveau, c'est gris. Du nord de la Bretagne et de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, dès ce matin, vous ouvrez vos volets sur des nuages, des averses, quelques flocons possibles dans les terres. Cet après-midi, ce temps pluvieux, faiblement, hein, tout de même, mais désagréable, qui s'étend jusqu'en région parisienne et jusqu'au centre.
Attendez, vous m'avez promis du soleil tout à l'heure, c'est où alors le soleil?
Ah oui, non, mais là, je le resigne. Ouais. Je le resigne. Et si vous voulez nous envoyer des photos, n'hésitez pas.
Ah oui, allez-y.
Du sud de la Bretagne, enfin, de même du sud de la Normandie jusqu'au Poitou-Charentes et pays de la Loire jusqu'aux plaines du Nord-Aquitaine et près de la Méditerranée. Là, vous êtes au soleil toute la journée.
Allez, profitez bien. Merci Valérie, à tout à l'heure. Dans un instant, on va parler de notre santé. Comment mincir en se faisant plaisir? Et puis à 6h20, la plaidoirie de Maître Noël, le meilleur de Mathieu Noël, l'avocat des causes perdues. On va revenir sur le fameux clip d'annonce de candidature d'Éric Zemmour. Mais avant, ça bien sûr les pronostics pour le quintet du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, c'est un très beau quintet qui nous est proposé cet après-midi à Vincennes. La finale du Grand National du Trot, le Tour de France des trotteurs. 17 partants et non 18, le numéro 11 ayant déclaré forfait. Il est légitime d'accorder un très large crédit à Clean Game, le numéro 18, de loin le trotteur le plus riche parmi les 17 partants restants, puisqu'il totalise plus d'1 727 000 € de gains et en dépit de son handicap de 50 mètres et jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux, il ne devrait avoir aucune difficulté à renouer avec la victoire. L'opposition sera constituée par Gou Baroque, le numéro 6, le seul 5 ans de cette finale à oser défier ses aînés, avec de réelles chances de réussite si l'on se réfère à ses performances obtenues sur le parcours qui nous intéresse, avec Éclat de gloire, le numéro 17, irréprochable depuis de nombreux mois, quel que soit le parcours proposé. Derrière ces trois priorités, je vous recommande le numéro 14 Express Jet, à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification dans l'étape de ce GNT le 24 novembre sur l'hippodrome du Mans, alors qu'il aurait à coup sûr terminé dans les trois premiers. Enfin, les numéros 7 Firello, 8 Fréja Dupont, 13 Elvis Duvallon et 2 Doux Parfum sont autant de possibilités pour s'immiscer à l'arrivée de ce quintet enrichi d'une tirelire de 500 000 euros. Mon pronostic, 18, 6, 17, 14, 7, 8, 13 et 2.
Merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
À 6h13 sur Europe 1 qui vous aide à prendre soin de vous avec les meilleurs moments de l'émission Bien fait pour vous. C'est tous les jours, tous les matins, du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine Big Will. Il est ingénieur agronome alimentaire. Question, comment mincir en se faisant plaisir?
On a décidé de se poser cette question. Peut-on manger des pizzas, des burgers ou même des tacos et être sportif et surtout bien dans son corps et en bonne santé?
Non mais c'est vrai que comme ça, ça paraît pas évident, mais vous verrez, il ne s'agit pas d'aller se nourrir uniquement au fast-food du coin. Il va falloir les cuisiner en fait, ces aliments qui nous font saliver. Et on va apprendre tout ça avec notre invité, l'influenceur sportif et culinaire Big Will. Mais avant cela, on va laisser la parole à notre reporter de l'extrême, Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour, j'attendais la transition à notre sportif de l'équipe et tout.
Vous voulez dire Big Clem, Big Clem, on peut vous appeler comme ça peut-être?
Exactement, c'est dingue, mais vous allez voir tout à l'heure le livre de Big
on
Will.
On dirait vous sur la couverture.
C'est la première fois que je rencontre un sosie body. On a exactement le même corps. Alors moi, mon rôle dans cette émission, c'est justement d'introduire un peu le sujet. On va parler manger, ça j'adore. Sainement, c'est plus compliqué parfois. Donc j'ai demandé à des experts enfants que j'avais rencontrés déjà, bien manger, ce que c'est. Des petits conseils.
Des pâtes, il faut éviter. Il faut manger beaucoup de légumes. 5 fruits, 5 légumes et pas de hamburger pendant 3 mois.
Oh. Et pas de coca, pas de boisson sucrée.
Oh non, ça je pourrais jamais arrêter.
Il y en a des bien dressés déjà.
Il y en a des bien dressés, mais il y a la phrase de fin, je pourrais jamais arrêter. C'est souvent ce qui nous empêche, ce qui nous fait revenir en se disant ok, j'essaye une semaine, deux semaines, puis les habitudes reprennent. Alors j'ai demandé aux adultes qui sont peut-être plus constants, les bonnes manières, comment manger sain, et ça veut dire quoi ?
Je pense que en fait, on peut manger de tout. Il faut simplement pas exagérer. Il faut évidemment pas manger trop gras, pas trop sucré non plus.
C'est de me faire livrer une fois par semaine un cajot de fruits et légumes d'un petit producteur bio du coin. Mmh. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que ça m'oblige à chaque fois à élaborer les recettes en fonction de mon panier. Donc, j'évite de faire à manger tous les jours la même chose.
Moi, ma méthode est simple, c'est que je ne mange que des produits frais, c'est-à-dire des fruits et légumes de saison. Ça permet une explosion de saveur en bouche, c'est succulent. Ça évite d'avoir des aliments un petit peu fades, notamment à cause des conservateurs.
Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est de cuisiner. Au moins, on arrive à gérer les protéines, les féculents, les légumes et l'apport de matières grasses.
Vous les avez payés, c'est pas possible.
Je les ai classés.
Qui
en
sont
fait.
Ces gens c'est
Les autres possible. Arrivent, ne ah, vous inquiétez pas. Là, j'ai classé, c'est ce qu'on appelle les faillots, les voilà. premiers de la classe. Le 20 sur 20, le bravo, vous avez tout bon. Heureusement, il y a les autres, il y a les comme nous, ceux qui parfois manquent un peu de motivation, voire de conviction.
J'ai voulu commencer à manger sainement. Du coup, on m'a conseillé les galettes de riz. Bah, ça a pas de goût et en plus, on dirait du polystyrène. Donc,
J'avoue.
Donc ça, voilà, elle est un peu déçue. Il y en a d'autres en montant en puissance.
Alors moi, petit conseil, c'est quand on va au McDo, on prend une petite salade comme ça. Au moins, on mange sainement.
Bah voilà. Non, mais elle est pas bonne.
Franchement, trop triste. Quoi. Si je vais au McDo, je prends la totale.
Elle est pas bonne. Bah voilà, bon, bah, vous n'êtes pas la seule. Peine perdue, il y a aussi cela.
Moi, je mange pas ça. Hein. J'aime pas ça. Les trucs verts, ça me dégoûte. Je préfère les McDo, KFC et tous les fast-food.
Donc là, on peut rien faire, justement, sauf écouter cette émission. Est-ce que vous avez la solution ? Est-ce qu'on peut continuer à se faire plaisir et finir avec des abdos comme ça ? Moi, je m'installe, j'écoute attentivement l'émission.
Ne bougez
je reste
pas,
là. Voilà,
merci beaucoup. Mais restez avec nous parce que je suis certaine que vous allez adorer les conseils de notre invité. Et vous savez quoi ? Il pèse lourd, hein, plus de 750 000 followers sur Instagram.
J'ai cru que c'était kilo.
Tout le monde a peur à chaque fois que je dis ça, mais c'est Big Will. Bonjour, Big Will.
Bonjour, bonjour.
Alors, je l'ai dit, vous êtes influenceur, mais vous êtes surtout ingénieur agronome spécialisé en nutrition du sport. Vous êtes également l'auteur du livre La méthode Big Will chez Solar Edition. Alors, soyons complètement honnêtes, Big Will. Est-ce qu'on peut vraiment être un vrai sportif performant, aimer manger, mais vraiment manger, hein. C'est-à-dire pas ce qu'on a entendu là au début du micro-trottoir de Clément Lanoux, mais être un gros gourmand comme nous, quoi.
Oui, oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est dur. C'est dur et c'est justement pour ça que j'essaie d'aider les gens qui en ont besoin, les gens qui n'y arrivent pas justement, parce que c'est pas évident d'aimer manger, d'aimer, comme on entendait tout à l'heure, les fast-food, etc., et avoir des objectifs physiques, sportifs, ou même vouloir manger sainement, tout simplement.
Mais alors, c'est quoi votre méthode en quelques mots ? L'objectif, c'est de diminuer le nombre de calories au fur et à mesure, c'est ça ?
Alors, pour cette méthode, oui, si on veut essayer de perdre du gras, essayer de perdre du poids, de mincir, le but, ça va être d'essayer de ne pas frustrer, de ne pas avoir quelque chose de trop drastique, donc d'essayer de diminuer le nombre de calories petit à petit, pour pouvoir avoir une évolution dans le temps. Après, le but réel, c'est pouvoir se faire plaisir tous les jours, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que les fast-food, on aime ça, les burgers, on aime ça, etc. Et de se dire, je dois complètement arrêter, on va y arriver. C'est trop dur, on va y arriver.
Mais vous êtes un gourmand, vous, ou pas ? Parce que franchement, avec cette musculature, ce corps qu'on voit en couverture,
calmez-vous, Mélanie,
qui nous fait un peu culpabiliser, on se dit, oh là là, on en est très très loin. On se dit, il ne doit pas aimer manger, c'est pas possible.
Si, justement, j'aime un peu trop manger même, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette méthode d'abord pour moi, parce que au début, j'y arrivais pas.
Vous n'avez pas toujours été comme ça ?
Non, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais je mangeais beaucoup. Je mange encore beaucoup d'ailleurs. Mais
Et ça aurait pas marché pour vous un régime justement sans le plaisir des ingrédients qu'il y a dans votre livre ?
J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est compliqué en fait. Ça dure un temps, donc ça fonctionne très bien au final. Les régimes très drastiques, on mange des brocolis vapeur toute la journée.
On maigrit, hein ?
On maigrit, ça fonctionne
après,
très bien. Et on reprend encore plus parce qu'on a la frustration, on a envie de. En fait, on pense qu'à une chose, la faim. Et la fin, on pense aux deux fins en fait.
Donc, le secret finalement, c'est le sport.
Le secret, c'est le sport, la nutrition, il y a le sommeil. Enfin, il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas réellement de secret.
Mais si vous arrêtez demain le sport pendant 6 mois, en gardant la même alimentation, est-ce que vous allez reprendre ou pas du tout ?
Alors, je ne vais pas forcément reprendre du gras si je diminue forcément les calories, parce qu'avec le sport, j'en dépense. Mais par contre, je vais perdre du muscle. Mmh. C'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que ça dépend des objectifs de chacun. Certains ne veulent pas forcément.
Vous proposez, je crois, 5 repas par jour, Big Will. Ça va plaire à Clément. 5 repas par jour. C'est pas mal.
Oui, normalement, je suis à 9, mais je vais descendre.
5, c'est énorme.
Ça fait beaucoup, oui. En fait, je fais ça pour couper un peu la faim, parce que c'est vrai que quand on passe 3-4 heures, voire plus, sans manger, quelquefois, ben, on a faim. Et c'est à ces moments-là qu'on craque souvent, parce qu'on va être traîné à côté de chocolat, de bonbons ou autre. Mmh. Et quand on a faim, ben, forcément, voilà. Donc j'essaie de couper
un peu. C'est bien ça.
Mais c'est quoi? C'est 3 repas, puis des collations? Comment ça se décompose sur une journée, par exemple?
En gros, il y a 3 gros repas, on va dire matin, midi, soir. Mmh. Et après, des collations à 10h, à 16h. Et on peut même en rajouter une après le repas si on a faim. Mais voilà.
Logiquement, on n'a pas faim en suivant votre programme.
Normalement, on n'a pas faim.
Bah non, mais c'est super, ça évite de se jeter comme une affamée sur le repas du soir notamment. Ouais. Mais si on n'est pas habitué à prendre des collations, c'est obligé de les prendre vraiment?
Non. En fait, il faut que ça corresponde à notre rythme de vie, parce qu'encore une fois, si ça ne correspond pas, on va le faire une semaine, deux semaines, et après on va arrêter parce qu'on n'y arrive plus. Donc il faut soit s'habituer si on a le désir de le faire, soit l'adapter à notre quotidien, à nous.
Bien fait pour vous, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'Info Express à 6h20, Lénaïque Monnier.
Le compteur du Téléthon 2021 atteint près de 74 millions d'euros de promesses de dons. 35e édition qui a renoué avec le terrain après la précédente confinée pour cause de Covid. 10 millions de Français ont reçu leur dose de rappel justement contre le Covid. Annonce hier d'Olivier Véran qui s'était fixé cet objectif la semaine dernière. Le ministre de la Santé précise que de nouveaux rendez-vous continueront d'ouvrir chaque jour pour que toutes les personnes éligibles puissent faire leur rappel en temps et en heure, autrement dit, avant le 15 janvier. Je peux battre Macron. Valérie Pécresse s'exprime dans les colonnes du JDD ce matin. La candidate investie hier par les Républicains parle de réparer la France. Investiture sans doute commentée aujourd'hui dans les différents meetings politiques. Jean-Luc Mélenchon sera à 14h à la Défense pour son premier grand rendez-vous sur scène, appelé l'Union Populaire. Premier meeting aussi du candidat Zemmour au Parc des Expositions de Villepinte, ce sera à 16h. Le pape François attendu sur l'île grecque de Lesbos aujourd'hui. Le souverain pontife s'y était déjà rendu au pic de la crise migratoire. Il y avait plaidé en faveur d'une meilleure intégration des réfugiés dans une Europe qui, selon ses dires, peine à montrer sa solidarité. Le foot et le Paris Saint-Germain qui arrachent le point du match nul à Lens hier soir en égalisant dans le temps additionnel. C'était la 17e journée. Paris compte 13 points d'avance sur Marseille, battu par Brest hier au Vélodrome 2-1. Ce soir, on suit Bordeaux-Lyon sur Europe 1 à 20h45.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Mathieu Noël, maître Mathieu Noël, l'avocat des causes perdues, Éric Zemmour et son fameux clip d'annonce de candidature, justement. Ne quittez pas, on revient sur Europe 1.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Hier à la mi-journée, le suspense a pris fin. Éric Zemmour a annoncé qu'il était candidat à l'élection présidentielle dans une vidéo diffusée sur YouTube, dont la mise en scène n'était pas sans rappeler l'appel du 18 juin du général de Gaulle, le tout avec la 7e de Beethoven en fond musical. Mise en scène qui a suscité un certain nombre de critiques, voire de moqueries. Maître, vous défendez ce matin le réalisateur de cette vidéo dont vous nous révélez au passage l'identité en exclusivité pour Europe 1.
Effectivement Dimitri, cette vidéo magnifique, ce bijou de modernité où tout, de la qualité du montage à la mise en scène en passant par les extraits de films qu'on a oublié de déclarer à la Gaumont, fleure bon le professionnalisme, vous en doutez, n'a pas été réalisé par n'importe qui, mais par Jean-Kevin Kubrick, le fils malvoyant de Stanley, même s'il a toujours refusé le test de paternité.
Et ce n'est pas tout à fait un hasard.
Écoutez, ça c'est votre avis, hein, de journalope bolchevique, on vous connaît. Nos presque 2 millions de vues sur YouTube prouvent, monsieur Pavlenko, que beaucoup de Français ont apprécié le travail de Jean-Kevin.
Bon, maître, il y a beaucoup de critiques. La première concerne la musique, très dramatique. Pourquoi Beethoven ?
Pourquoi Beethoven ? Vous avez raison Dimitri, pourquoi Beethoven ? C'est vrai au fond, on aurait pu opter pour la compagnie créole, hein, ça aurait été plus gai. On avait fait un essai d'ailleurs.
Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie. Pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis.
C'est ça que vous auriez voulu Dimitri, hein ? Heureusement que c'est Jean-Kévin qui a supervisé la vidéo et pas vous. Hein ? Dieu sait ce que vous auriez proposé comme musique de fond pour soutenir l'entrée en campagne d'Éric Zemmour. Avec un partisan du multiculturalisme comme vous, on craint le pire. Hein ?
Africa.
Oh mon dieu!
On marche de la brousse.
Oh non! Oui, c'est drôle,
Africa.
Oui.
Africa. Attention, les secousses.
Oh mon dieu! Pauvre France! Heureusement que notre candidat va bientôt remettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors oui, la 7e de Beethoven, on assume. En plus, c'était libre de droit, contrairement à tous les autres trucs qu'on a mis dans les vidéos. Et si vous aimez la musique allemande, c'est que
le début. Dimanche au Zénith, Eric arrivera en hélico, comme Freddie Mercury à Wembley en 86, en plus viril, sur la chevauchée des Valkyries de Wagner. On a dit que son ton était apocalyptique, alors autant aller jusqu'au bout.
Oh, la gueule qu'ils vont tirer à la mairie de Paris, là.
Ça, c'est sûr que la Hidalgo, ça va lui défriser la piste cyclable, là.
Maître, que répondez-vous à ceux qui accusent la vidéo d'Éric Zemmour de céder aux sirènes du « c'était mieux avant » C'est vrai que notre époque est dépeinte comme quand même plutôt inquiétante, alors que les 30 Glorieuses sont totalement idéalisées, selon vous. Est-ce que ce ton était passéiste ?
Passéiste. Nous, passéistes. Monsieur Bétou, Monsieur Pavlenko, Madame Adadi Anissa, qui s'appellera bientôt Chantal, dans le cadre de notre programme de rééducation patronymique. N'écoutez pas l'épice vinaigre. Notre campagne démarre sous le signe de la modernité la plus insolente. Nous, passéistes, créons d'une pipe en bois. Voilà une critique pas piquée des hannetons. Écoutez, je n'avais pas prévu d'être vulgaire, mais je vous le dis, saperlipopette, Monsieur Pavlenko, vous commencez à m'enquiquiner. Si vous continuez avec vos fariboles de gens foutre sur le passéisme, je prends mon baise en ville, je vais l'encocher et je m'en vais.
Bon, il faut se calmer un peu là quand même. Je fais qu'évoquer les critiques qu'a suivi cette vidéo. C'est certains l'ont trouvé caricaturale, oui, avec cette juxtaposition d'images de commissariats attaqués, de bagarres dans les transports en commun. Est-ce que vous assumez ça aussi ?
Non, là je suis obligé de vous rejoindre, je comprends. Je comprends que ces images violentes vous aient choqué. Tous nos concitoyens pourront en témoigner. On peut parfaitement aujourd'hui prendre le métro sans être témoin d'agression. On peut passer devant un commissariat sans qu'il ne brûle. On peut même envoyer une lettre à la poste sans qu'elle ne se perde. Cette France existe. Elle s'appelle la Suisse. Et c'est précisément pour ça, pour que notre pays renoue avec ce calme, cette paix sociale, ce civisme, qu'Éric Zemmour se présente. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Dans notre vidéo, il y a un constat, mais pas beaucoup de propositions concrètes. On est encore dans le flou, c'est vrai, mais on va monter en puissance sur le programme, on va budgétiser. Nous ne serions pas les premiers, vous savez, à nous lancer tête baissée sans être totalement béton sur les chiffres. On a déjà vu des journalistes comme ça.
Vous savez combien il y a de paires de lunettes en France ? J'ai pas le chiffre, mais...
Bon, comme vous, Dimitri, on est un peu dans l'impro, mais on y croit. Alors je vous laisse, ma dauphine égarée en double fil, Laurie, Chantal, mes hommages, et n'oubliez pas, ce dimanche, le candidat du sursaut français vous donne rendez-vous au Zénith de Paris. 50 francs l'entrée, 35 pour les étudiants. Tout le monde est le bienvenu, sauf évidemment les journalistes prosélytes de gauche.
Ça t'intéresse pas une biographie de Macron, non ?
Mais non, ça ne nous intéresse pas, votre biographie de Macron. Gardez-la.
Oh là là, c'est un peu incroyable. Merci, maître. Allez, on vous retrouve cet après-midi, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern,
oui,
au programme.
Je reviendrai, moi. Toujours le point levé, avec trois personnages qui avaient toujours le point levé. Ah. Tommy Smith et John Carlos, hein, les JO de 68. Mmh. Nelson Mandela et Amel Bent.
Ah, évidemment, bien sûr.
Qui nous a inspiré cette émission.
Le point levé, Amel Bent.
Bah oui, dans ma philosophie. Oui, on voyait les paroles.
Toujours le point levé. Ça y est, vous l'avez.
On ne mange pas les mêmes rillettes, peut-être. Merci, merci Mathieu.
Dans quelques minutes, le journal. Mais tout de suite, Étienne Dao, son dernier single, Virusix.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h30 sur Europe 1, l'information de ce dimanche matin. Clément Gouiz, bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les Républicains ont choisi leur camp. Il s'agit de Valérie Pécresse. Objectif maintenant, rassembler son camp et récupérer des électeurs qui sont partis pour remporter la présidentielle de 2022.
Et si les croisières maritimes devenaient plus vertes, justement, le premier paquebot au gaz naturel a été mis à flot cette semaine. Reportage dans un instant de Charles Guyard.
Et puis le tennis français met la main à la poche pour aider les champions et championnes de demain. On parle à la fin de ce journal.
Au programme de votre prochaine demi-heure, une date, une histoire à 6h40. Philippe Legrand recevra le chanteur Sanseverino. Et puis à 6h50, nous irons à Lyon pour la fête des Lumières qui débute ce mercredi. Et nous dégusterons du pain d'épices à Nancy pour la Saint-Nicolas. Mais d'abord, la tendance météo, Valérie Darmon.
Des chutes de neige marquées en montagne, des 700 mètres en moyenne, des giboulées en plaine, un refroidissement général avec des températures 2 à 3 degrés en dessous des normales, un vent du nord sensible qui accentue encore la sensation de froid humide, mais du soleil entre le golfe du Morbihan et le Bordelais.
À tout à l'heure, Valérie. Valérie Pécresse est donc la candidate qui représentera la droite pour la présidentielle.
Élue avec 60% des voix des adhérents LR face à Éric Ciotti, c'est la première fois qu'une femme représente cette famille politique dans la course à l'Élysée. Ça y est, la dynamique est lancée pour Valérie Pécresse, Alexandre Chauveau.
Oui, c'est en tout cas ce qu'espère la candidate, félicitée hier par tous les cadres du parti ainsi que par Nicolas Sarkozy. Mais désormais, c'est une autre campagne qui débute pour Valérie Pécresse à la rencontre de tous les Français et non plus seulement des adhérents LR, comme elle l'expliquait hier soir aux 20h de TF1.
Je vais aller parler aux Français, à ceux qui s'abstiennent, à cette France des ronds-points, à ceux qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, à ceux qui ont peur pour leur sécurité, pour leur mode de vie. Je vais aller leur parler parce que nous avons des solutions.
Valérie Pécresse va ainsi multiplier les déplacements. Elle sera lundi chez Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, jeudi en Savoie chez Michel Barnier et vendredi dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand. Autant d'anciens concurrents qu'elle devrait inclure dans son équipe de campagne pour partir à l'assaut de l'Élysée. Mais pour y arriver, la candidate des Républicains devra creuser son sillon et imposer sa ligne pour occuper un espace politique qui semble étroit, à mi-chemin entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour.
Alexandre Chauveau du service politique a noté que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sera l'invité du grand rendez-vous européen CNews et Écho à 10h. Un meeting d'Éric Zemmour sous haute tension aujourd'hui à Villepinte.
19 000 personnes sont attendues au parc des expositions pour soutenir leur candidat. Le protocole de sécurité devrait être renforcé. Il faut dire que des organisations syndicales, des partis, des associations appellent à manifester à Paris. Objectif, hein, je cite, faire taire Éric Zemmour. Le cortège partira du quartier Barbès à 13h, direction la Villette. Un autre rassemblement se déroulera à Villepinte.
10 millions de Français ont reçu une dose de rappel.
C'est ce que nous apprend le ministre de la Santé, Olivier Véran. L'objectif que s'était fixé le gouvernement pour cette fin de semaine est donc atteint. Concernant l'épidémie, on note près de 52 000 nouveaux cas de Covid lors des dernières 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés atteint 11 340, dont 2 037 en réanimation.
Clément, direction Saint-Nazaire à présent, où le premier paquebot au gaz naturel a été mis à flot.
Le World Europa sera livré à l'automne prochain et sera doté d'un moteur nouvelle génération. Le but, réduire sensiblement son empreinte carbone. C'est une première pour un bateau que cette dimension hors norme fabriquée en France. Bateau qui a été mis à flot jeudi.
Au pont inférieur, en fait, c'est un pub, l'English pub.
Difficile en effet de se l'imaginer dans ce vaste chantier, mais oui, ici, il y aura bien un pub.
Ça, c'est les cuves pour fabriquer à bord la bière.
Question cuve, le MSC World Europa est bien équipé. Il y a donc celle pour la bière, mais il y a surtout celle plus importante dans la salle des machines qui renfermeront le gaz naturel liquéfié, le GNL, un carburant plus écologique. Laurent Castin, le directeur des chantiers de l'Atlantique.
L'usage du gaz naturel permet d'éviter 20% des émissions de gaz carbonique.
Une propulsion qui permet d'avancer surtout vers les accords de Paris visant à réduire de moitié les rejets des bateaux en 2030. Mais d'ici là, le projet de voile géante en Kevlar, également développé à Saint-Nazaire, aura peut-être fait ses preuves. L'armateur MSC, en tout cas, n'y est pas insensible pour sa flotte de géants. Son directeur France, Patrick Pourbet.
Nous avons signé une lettre d'intention. Ça permet au chantier d'investir en recherche et développement, avec derrière une promesse. Si ça fonctionne, eh bien, on est prêts, nous, à construire des bateaux avec des voiles dures.
Des siècles de navigation l'ont déjà démontré, la voile. Ça fonctionne, reste maintenant à savoir si on accepterait aujourd'hui de ralentir un peu la cadence ou de jongler avec les aléas de la météo pour le fret, mais aussi pour les croisières.
Il sera prêt fin novembre 2022.
Saint-Nazaire, Charles Guyard, Europe 1.
Et puis ce matin, on se pose cette question. Comment conserver pendant des centaines d'années des documents historiques?
L'encodage ADN vient de faire son entrée aux archives nationales. Deux textes fondateurs de 1789 et 1791, la Déclaration des droits de l'homme et celle des droits de la femme, ont été encodés sur ADN grâce à une nouvelle technologie. Elle promet un stockage plus durable et moins volumineux que le numérique classique. Et c'est une première mondiale pour une institution publique. Un reportage de Laure d'Autriche.
Les deux textes historiques tiennent dans une petite capsule d'un centimètre qui pourra être conservée pendant 50 000 ans, là où le stockage numérique est énergivore et a une faible durée de vie puisque les données doivent être transférées tous les 10 ans. C'est de l'ADN artificiel qui est utilisé comme support, explique Stéphane Lemaire, directeur de recherche au CNRS, qui est à l'origine de ce projet.
L'ADN, c'est un stockage à l'échelle moléculaire, donc c'est une molécule, vous ne pouvez pas la voir à l'œil nu. On peut prendre ces molécules d'ADN, telles que celles qui contiennent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les introduire dans une bactérie, multiplier cette bactérie des milliards de fois, réextraire cet ADN pour obtenir des milliards de copies de la même molécule. Et on pourra le conserver pendant 50 000 ans, on peut revenir dans 1000 ans et relire ces données sans aucun problème.
L'ADN est lyophilisé et pour récupérer et relire le texte, il suffira de rajouter une goutte d'eau. Ce système d'archivage est écologique mais très coûteux, 1000 dollars le mégaoctet. Avec cette technique prometteuse, toutes les données numériques du monde pourraient être stockées sur un seul fichier ADN de la taille d'une tablette de chocolat.
L'heure d'Autriche. Et puis on termine par ce coup de pouce pour les jeunes talents du tennis français.
20 futurs champions et championnes vont bénéficier d'un accompagnement financier humain pour les préparer au monde professionnel sous l'œil de leur parrain, Joe Wilfried Tsonga. Il faut dire que la France a de plus en plus de mal à exister au plus haut niveau, raison souvent invoquée, le passage difficile du niveau junior au niveau pro. La team était récemment réunie à Roland-Garros, nous y étions.
Sur la terre battue du central de Roland-Garros, la team Jeunes Talents s'est réunie.
L'opportunité d'être financé est une chance inouïe. Une année sur le circuit, même chez les plus jeunes, coûte une fortune. Gabriel, 15 ans, grand espoir de la nouvelle génération, en sait quelque chose.
Une année de tennis, ça coûte plus de 100 000 euros. Sortir ça par les parents, c'est presque impossible, sachant que moi j'ai un frère et une sœur. Ils pensent qu'on peut y arriver, donc ils nous aident. On donne tout sur le terrain pour pouvoir y arriver.
Former les joueurs, mais aussi les futurs hommes et femmes avec des ateliers d'anglais ou encore de sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux. Le tout sous la houlette d'un finaliste en grand chelem, Joe Wilfried Tsonga, qui veut transmettre sans imposer.
L'objectif, c'est vraiment pas de donner des conseils ou de diriger. C'est vraiment de donner mon expérience. Et de ça, ils vont faire leur travail de champion. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre et jeter ce qu'ils ont à jeter.
La promotion 2021 se retrouvera à l'occasion de séminaires tout au long de la saison. Objectif, d'ici à 2025, former jusqu'à 30 nouveaux professionnels. Et qui sait, peut-être le futur numéro 1 français.
Un reportage de Colin Abgral.
Et puis on rappelle que le PSG a arraché un point miraculeux à Lens hier soir. Match nul, 1 partout. C'était le journal de Clément Guise. Merci Clément, à tout à l'heure. La météo, Valérie Darmon. Flavienne tient nous dit sur Twitter qu'il fait 4 degrés à Reims. Pluie et moche, nous dit-elle. On l'embrasse néanmoins. Météo aujourd'hui, on va dire gris, blanc, un peu de bleu.
Oui, on est positif. Il y a du soleil tout de même, je le disais tout à l'heure, depuis la basse Normandie jusque sur l'estuaire de la Garonne. Donc là, tout de même, vous êtes au soleil. Mais à partir des Landes, attention, le ciel se réassombrit et le vent souffle en rafale à plus de 110 km/h, hein, tout de même. Alors, côté relief, Vosges, Jura, Massif central, Alpes, Pyrénées, il neige dès 400 à 700 mètres d'altitude selon les massifs. La couche de neige fraîche pourra atteindre 15 à 30 cm vers 1000 mètres sur les Pyrénées, davantage au-dessus. Prudence si vous circulez en montagne. Attention aux vigilances avalanches sur les Pyrénées, Atlantique et Haute-Pyrénées. Il n'est pas question de dégel au-dessus de 600 mètres. Hein. Oui. Sur la Bourgogne, la Champagne, la neige peut tenir au sol façon saupoudrage des 300 à 500 mètres. Et puis partout ailleurs, je fais la liaison. Ça vaut le coup pour dire que c'est gris et que c'est maussade tout de même.
D'accord, merci Valérie, rendez-vous à 7h. Allez, à 7h10, on part en balade avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Mais tout de suite, Philippe Legrand. Une date, une histoire ce matin, le chanteur Sanseverino. Bonjour Philippe.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 2007, un nouveau mouvement fait son apparition. Bonjour Sanseverino.
Bonjour Philippe.
Chanteur, auteur, compositeur, la scène est votre vie. Vous, l'homme de spectacle, guitariste autodidacte, admirateur de Django Reinhardt, vous chantez le monde qui vous entoure comme si vous écriviez un livre. Vos chansons sont des histoires qui nous ressemblent. Un bistrot, des amis, l'amour, les larmes, le soleil, la nature. Sanseverino, vous aimez aussi l'humour. Il paraît même que vous avez enseigné l'art d'être clown. Votre album, Les deux doigts dans la prise, nous ramène à la réalité. Ce matin, justement, vous avez choisi de revenir sur l'année 2007, la naissance du mouvement MeToo. Il faut attendre l'année 2017 pour en mesurer son action avec l'affaire Weinstein. Rappel des faits sur Europe 1 avec l'actrice Marlène Jobert qui parle de sa fille, Eva Green.
Ma fille Eva a été victime de cet horrible bonhomme. À l'époque, quand c'était il y a à peu près 7 ans, j'en avais été tellement horrifiée, scandalisée, que je voulais faire aussi quelque chose, mais ma fille m'a dit surtout pas, tu ne veux pas savoir le mal qu'il est capable de faire.
Le mal qu'il est capable de faire, nous dit Marlène Jobert à propos de Weinstein et de sa fille Eva Green. On est après cette année 2007, naissance du mouvement MeToo. Sanseverino, vous avez choisi cette année-là pour évoquer ce phénomène qui va prendre cette ampleur en 2017. Pour quelle raison ?
Ben parce que d'abord ça fait partie des trucs qui vont secouer la terre et qui vont faire qu'il va y avoir des changements dans l'humanité, dans la façon dont nous les mecs on se comporte. Je dis nous en règle générale, évidemment tout le monde est un propre individu et on fait pas tous n'importe quoi, mais en tout cas ça fait longtemps qu'on se dit, oh là là, changeons les choses, et puis on fait tout un tas de discours, on cherche comment faire. Et là, il y a des gens qui ont mis vraiment le pied dedans, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que voici des faits, voici ce qu'on en pense, et voilà, et le truc, il explose, et c'est pas pour rien, c'est aussi vrai, quoi. On devrait faire ça avec une quantité d'autres choses aussi, mais en tout cas, ce truc-là, il a marché. Alors moi, je sais pas expliquer pourquoi ni comment, juste que je le fête cet événement parce que Parce que ouais, enfin, on va en venir à bout du mauvais truc du patriarcat et de la pression. Alors qu'il y a un truc que je connais pas. Moi, je sais pas, j'ai jamais embauché personne, donc je n'ai jamais j'ai jamais demandé à une femme de me faire quoi que ce soit pour en échange d'une embauche. Et moi, j'ai toujours eu des relations amoureuses que je qualifie de normales, même des fois, même je les trouvais, je croyais que j'en avais pas assez. En tout cas, j'ai pas utilisé cette technique pour avoir des femmes.
Sanseverino, ouais. Là, c'est une confidence que vous nous faites, effectivement,
ouais,
sur votre comportement. En fait, ce phénomène-là est né en 2007, il faut le rappeler, aux États-Unis. Et déjà, c'était MeToo, une initiative d'une certaine Tarana Burke. Ouais. C'est elle qui est à l'origine de ce phénomène. On l'a oublié, hein, c'est important. Et puis, il y a eu toutes ces affaires. Hein. L'objectif était de donner la parole aux femmes, de leur permettre de s'exprimer grâce aussi au développement de ces réseaux sociaux. Hashtag MeToo, le hashtag est important, avec des variantes hein, d'un pays à l'autre. En France, on l'a vu, évidemment, avec Balance ton porc. Ouais. Mais au Québec, c'est une autre expression, hashtag moi aussi, donc qui va dans le même sens. Est-ce que vous avez eu autour de vous, vous parliez de vous, mais autour de vous, des cas, des exemples, vous avez entendu dire?
Oui, j'ai entendu tout un tas d'exemples, notamment juste de la pression que certains mecs, parce que c'est bien des hommes dont on parle, hein, que certains hommes ont pour embaucher des actrices. Je connais plein d'actrices, j'en connais pas à qui ce truc-là est arrivé directement, c'est-à-dire il n'y a pas eu de passage à l'acte, mais il y a quand même un truc, bon... Avec le MeToo, on parle aussi du fait que on parle pas que de leur corps aussi. Moi, je trouve
que... Oui, le vocabulaire, la manière de se comporter avec les mots.
Et puis les salaires, et puis tous ces trucs-là, quoi. Les femmes, elles sont... Le MeToo, il porte aussi tout ça pour moi. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, même juste ici en France, quoi. Et je trouve que c'est un bon départ pour lutter contre le patriarcat. J'arrive même plus à prononcer. Bon, lutter contre le patriarcat et qui fait qu'il y a un truc avec lequel nous on est nés, quoi. Nos pères, enfin je parle pas du vôtre Philippe, mais en tout cas moi je voyais mon père ne pas débarrasser et puis parce que ma mère disait mais non laisse et tout ça c'est un truc qui c'est pas, il n'y a pas une série de mecs qui ont inventé une loi qui disait bon allez c'est les bonnes femmes qui doivent faire ça, quoi. Mais ça se disait et ça faisait partie de, c'est même rentré dans l'humour. Ça fait partie de tout le monde a accepté cette chose.
Sanseverino, c'est une façon, hein, c'est ce que je comprends dans ce que vous dites, au fond, de remettre de l'ordre dans l'éducation, dans la culture, dans cette façon de transmettre d'une certaine manière des traditions qui pourraient être modifiées et remises au goût
et
du
encore,
jour.
Et encore, là, je parle pas de viol, puisque moi, je suis personne pour pouvoir analyser ce qui s'est passé. Mais je veux dire, si ce n'est que c'est dégueulasse, ça mérite des coups de poing dans la gueule, quoi. Quand un mec, un producteur ou un machinot ou n'importe qui viole une actrice ou une femme qui n'est pas actrice, enfin, je veux dire, il mérite un coup de boule, quoi.
Il y a des plaintes maintenant et puis des affaires évidemment qui se jugent devant les tribunaux.
Oui, le coup de boule, c'est vrai que ça résout rien.
MeToo, c'est un mot, une expression, une formule qui vous inspire, vous qui sortez les deux doigts dans la prise, qui veut dire beaucoup. Hein,
alors,
il faut provoquer une électricité là, quelque chose pour attirer l'attention.
Le truc, il a été électrique en tout cas, Philippe. C'est-à-dire que c'est monté très très vite au créneau, quoi. Ça aurait pu être étouffé comme ça, genre oulala, attention, il y a des trucs en jeu, n'en parlons pas. Ce qu'on a entendu de chez Marlène Jobert tout à l'heure là, c'est bien comme ça que ça se passait avant. Ah oui, mais non, il est très puissant, il faut rien dire sur lui. Il y a un truc, quelqu'un qui fait ça, comme Einstein, en plus il exerce une espèce de terreur sur les gens.
Alors là, vous nous donnez avec les deux doigts dans la prise l'occasion d'être encore plus concerné, plus concentré, plus attentif. C'est le titre de votre nouvel album. C'est un peu surréaliste ce titre-là, non ?
Oui, mais ça représente un truc qui a été fait pendant le confinement. C'est-à-dire, bon, allez, maintenant, on se met les doigts dans la prise et on s'énerve un peu.
Et on bouge.
Et on se bouge, on essaie de se faire bouger. Et puis... Bon, c'est le titre d'une chanson qui parle de absolument pas de ça. Ça parle du fait que des fois on analyse ses propres tares, mais on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on devrait faire. Donc c'est un peu un double sujet.
On va entendre votre voix et son jeu de mots avec ce clin d'œil que vous faites. On va entendre votre voix pour se dire au revoir avec chez Gigi Kell. C'est votre choix. Merci d'être venu sur Europe 1. Ce matin, avec vous, on a retrouvé cette année 2007 et la naissance du mouvement MeToo. À bientôt. Au revoir, Santiago.
Oui, à bientôt, Philippe. Merci beaucoup. Écoute le léger swing de la machine à coudre, le son grave du baril de la lessive en boulot. Quelqu'un prend la raquette à battre les tapis, il fait un fluff sur le côté, sur le bas du lit. La rythmique des appareils est ménagée, mais sera je la machine à laver. Les objets chantent à qui veut bien écouter, même les cracks sur le bois du plancher. Même le commun des mortels entend ça chez Gigi Kell. Il y a dans cette urne des ondes de musique qui circulent du parquet jusqu'au briquet. Le doux clapotement de la cafetière, programmable et intarissable geyser. L'eau qui gargouille groove dans les tuyaux, bière glacée qui teinte dans le frigo. Arnaque ou bien magique, mélange de Texas et de nouveau Mexique. Même le commun des mortels.
San Severino, l'invité de Philippe Legrand. Philippe, que l'on retrouve dimanche prochain.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Bientôt 7h10, l'essentiel de l'info de ce dimanche, Clément Guizin.
Près de 52 000 cas de Covid en 24 heures, plus de 2 000 patients en réanimation. Justement, un nouveau conseil de défense doit se dérouler demain. Il sera question de mettre en place de nouvelles mesures restrictives et également d'élaborer un calendrier pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Les soignants reçus au ministère de la Santé, ils ont manifesté leur colère hier à Paris à l'appel de plusieurs syndicats de professionnels hospitaliers. Objectif, demander plus de moyens et dénoncer leurs conditions de travail, défendre l'hôpital public. Une délégation a donc été reçue par un conseiller ministériel. Le pape François Lesbos, le souverain pontife, se rendra aujourd'hui dans un camp de Lille qui accueille près de 2200 demandeurs d'asile. Il a regretté hier que l'Europe persiste à tergiverser face aux arrivées de migrants, parfois bloqués et déchirés par les égoïsmes nationalistes. Puis le PSG cale une nouvelle fois en Ligue 1 sur la pelouse de Lens, match nul hier soir, un partout.
Merci beaucoup Clément. Allez, dans une minute, on part en balade à Lyon pour la fête des Lumières, puis à Nancy pour la Saint-Nicolas. Le plein d'idées week-end, c'est sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche avec Vanessa Aza et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Nouvel horaire, 7h-10, dites-le vous bien.
On est là.
Alors ce matin, Vanessa, on va commencer avec vous. On part en balade à Lyon. À Lyon, donc, la ville qui a vu naître Marion Sauveur.
La plus belle ville, s'il vous plaît.
Lyon qui va vivre à partir de mercredi et pour 4 jours au rythme de sa fête des Lumières.
Qui est une institution depuis 20 ans cette année. Alors on plante le décor. 31
créations artistiques. Elle avait annulé l'an dernier à cause du Covid.
Exactement. Donc là,
il faut y aller.
Il faut y aller doublement. 31 créations artistiques, 27 sites du patrimoine. Mmh. En fait, on est 3 millions chaque année à aller écarquiller nos yeux devant toutes ces créations. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une des grandes références mondiales en termes d'événements culturels de mise en lumière. Mais c'est aussi un tremplin pour les artistes français et internationaux. Mmh. Mais c'est surtout, évidemment, une fête populaire, la vôtre, Marion.
Mais oui.
Bien ancrée dans le cœur des
D'ailleurs,
Lyonnais.
D'ailleurs, je crois que ça a été créé pour Marion.
Ah, Marion, on y est presque. Marion, Marie. Pourquoi ? Parce que si on remonte à l'origine cette fête, on atterrit au XVIIe siècle. On est en 1643, Lyon est touché par la peste, tous les habitants s'en remettent à la Vierge Marie. Et là, évidemment, le miracle opère et ils vont donc lui rendre hommage chaque 8 septembre.
8 septembre, on est le 8 décembre.
Oui, alors en fait la date a changé. Mais pourquoi ? Alors Audrey Enoch, qui est en charge des grands événements à la mairie de Lyon, lève le voile.
Les Lyonnais, les Lyonnaises, ils avaient décidé de monter une Vierge en haut de Fourvière. Et l'inauguration devait avoir lieu le 8 septembre 1852. Malheureusement, le temps ne permettait vraiment pas de faire cette inauguration ce jour-là. Et donc, les festivités avaient été reportées au 8 décembre de la même année. Malheureusement, le 8 décembre, le temps était encore exécrable et donc l'inauguration a été annulée une seconde fois. Et donc, les Lyonnais et les Lyonnaises ont allumé des bougies à leurs fenêtres pour remercier quand même Marie et puis vivre en communauté ce moment de gratitude.
Et ça, c'est extraordinaire. Ah oui. Pardon, voilà, Vanessa, je me permets d'interrompre, mais tous les Lyonnais de France mettent des bougies chaque année.
Mais aux fenêtres.
Et
vous faites
ça, vous. Mais bien sûr.
Vous le faites à Paris,
mais bien sûr, c'est extraordinaire. Vous repérez les Lyonnais ça, grâce aux petites bougies sur les fenêtres.
Mercredi, on est chez vous, voilà.
Vanessa, c'est une belle opportunité pour découvrir justement la ville de Lyon. On se balade, bien sûr, de site en site. Il y a quelques sites que vous nous conseillez plus que d'autres.
Moi, je trouve ça intéressant de découvrir Lyon par les places, parce que les places, évidemment, elles sont centrales dans l'histoire de Lyon. Elles ont aussi contribué à l'inscription de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO en 98. On va faire d'abord les deux incontournables.
La place Bellecour.
Et oui, grande place de Lyon. La plus grande place piétonne d'Europe aussi. Et c'est le lieu de rendez-vous des Lyonnais qui se retrouve à un endroit bien précis que nous révèle aussi Audrey Enoch.
Au milieu de la place, vous avez une statue équestre de Louis XIV et que la tradition, c'est de se donner rendez-vous sous la queue du cheval à Lyon.
Ah oui,
la queue du cheval. Voilà, Marion aussi, vous vous donniez rendez-vous sur la queue du cheval.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Allez, autre place.
La deuxième place incontournable pour vous.
La place des Terreaux, emblématique. Pourquoi ? Parce qu'elle est entourée de l'hôtel de ville, du palais Saint-Pierre, c'est le musée des Beaux-Arts, la fontaine de Bartholdi. Je ne sais pas si vous saviez, Marion, mais la fontaine, au départ, elle a été créée pour Bordeaux. Vous saviez ou pas ?
Ah non, pas du tout.
En fait, les quatre grands chevaux représentent les quatre confluents de la Saône. Voilà, qui les mène à l'océan. Voilà. Et alors, elle est géniale, cette place, en ce moment, pour le vidéomapping des Fêtes de la Lumière, parce qu'elle est rectangulaire, donc on est dans une immersion totale. Et cette année, il y a des créations, en plus, à hauteur d'enfant. Autre place, dernière, la place des Jacobins. Oui. Pourquoi ? Parce que vont se dérouler les Lumignons du Cœur pour soutenir les étudiants qui ont souffert du Covid. On pourra acheter ou créer soi-même petit lumignon pour 2 euros et créer comme ça un parterre de fleurs lumineuses.
Vos adresses, Vanessa ?
L'hôtel de Verdun 1882 qui est situé à deux pas de la place donc Bellecour, et c'est un des plus anciens hôtels particuliers de Lyon. Et là, vous êtes dans un univers du voyage, l'hôtel particulier d'un voyageur.
Elle est de Lyon, on va à Nancy.
Exactement.
Marion, Nancy, demain, Saint-Nicolas.
Et oui, les fêtes de Saint-Nicolas se passent à Nancy. Elles ont débuté depuis quelques jours et elles vont durer jusqu'au 2 janvier.
J'aime bien cette ambiance. Ah, on est dans aussi. Noël. Là. Oh,
exactement. Mais oui, et j'espère que vous ouvrez les cases de votre calendrier tous les jours, Thierry. Alors forcément, ce week-end, juste avant la Saint-Nicolas, c'est le point d'orgue. Saint-Nicolas, c'est le saint patron des Lorrains. Il est considéré comme le protecteur des enfants. Alors, il y a beaucoup de légendes autour de Saint-Nicolas et notamment une qui raconte qu'il aurait ressuscité trois enfants assassinés par un cruel boucher. En Lorraine, la Saint-Nicolas est une fête donc incontournable, surtout pour les enfants. Et ce soir, ils vont déposer leurs chaussures près de la porte avec un verre de Mirabelle, on est en Lorraine, et une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas. En échange, les enfants sages seront gâtés, traditionnellement d'un pain d'épices en forme de Saint-Nicolas. Et c'est une tradition qui date de plusieurs siècles.
Et on en a un là ce matin.
Il est pour moi.
Grâce à vous. Comment il est ce pain d'épices ? Il est somptueux d'ailleurs.
Alors à chaque confiserie, boulangerie, pâtisserie lorraine, sa recette et ses secrets. Alors dans la tradition, les pains d'épices sont découpés à l'effigie du saint, mais aussi peints à la main. Regardez,
c'est super
beau. Extraordinaire, un véritable travail d'artiste.
Tout ça, c'est peint à la main. Ouais.
Ouais, c'est incroyable.
Exactement.
Et c'est du sucre. La couleur aussi, c'est du sucre.
Comme l'explique Jean-Luc Guilvic de la maison Lalonde à Nancy.
C'est même plus un travail artisanal, c'est quasiment un travail d'orfèvre, quoi. Il faut réaliser le pain d'épices. Il faut le laisser reposer. Il faut le retravailler. Après, il faut le glacer. Après, il faut le laisser sécher. Après, on va dessiner le motif de Saint-Nicolas et après, on va l'orner par de la couleur. Ils sont réalisés pièce à pièce. C'est pas à la main, avec des moules d'origine.
C'est fou.
Et à la maison Lalonde, le pain d'épices est donc réalisé à partir de farine, d'œufs. Et comme épices, la cannelle, l'anis, les clous de girofle et la cardamome. Le glaçage va donc apporter ce bon petit goût sucré en plus.
Vous avez aimé ?
Moi, j'adore. Attendez, excusez-moi, je t'entends.
C'est ce que j'ai vu. Vous aimez.
Vous savez, c'est pour ça que je vous adore, outre ce que vous êtes. C'est qu'à chaque fois, on mange avec vous et moi,
et
j'adore manger.
Kilos, voilà.
Marion, on peut faire son propre pain d'épices ? Enfin, pas moins, mais vous.
Alors, vous pouvez essayer, mais vous n'obtiendrez pas même résultat, puisque le pain d'épices est réalisé à partir de ce qu'on appelle une pâte mère, à base donc de farine et de miel, qui va reposer donc plusieurs semaines pour fermenter. Et ce n'est qu'ensuite qu'on va y ajouter des œufs, des épices avant de cuire cette pâte. Mmh. À la maison, on peut réaliser donc ce qu'on va appeler un cake aux épices. C'est en tout cas le nom que vont donner les fabricants de pain d'épices à ce pain d'épices maison. On commence par délayer le miel dans du lait chaud. On va y mélanger du beurre et quand c'est homogène, on va fouetter avec la farine avant d'y incorporer la levure, le sucre et l'œuf et enfin les épices. Vous pouvez même mettre des fruits secs et même des écorces ou des zestes d'agrumes en fonction de vos goûts avant de mettre dans les moules en forme de Saint-Nicolas, ça c'est important, ou sur une plaque qui va au four et donc de détailler en forme de Saint-Nicolas avec des emporte-pièces. Cette recette, vous pouvez même l'utiliser pour faire des maisons en pain d'épices ensuite.
Sur europe1.fr bien évidemment. Vous passez un merveilleux dimanche et on se retrouve bien sûr le week-end prochain avec plaisir. 7h-10.
Au week-end prochain.
Bon dimanche.
Bon dimanche sur Europe 1. On reste ensemble. Il est 7h.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On vous accompagne avec beaucoup de plaisir. Plein de nouveaux rendez-vous à suivre. Mais d'abord, toute l'info à 7h avec Lénaïck Monnier. Bonjour Lénaïck.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Deux salles, deux ambiances. À droite, Éric Zemmour sur scène à Villepinte. À gauche, Jean-Luc Mélenchon à la Défense. Choc des extrêmes pour relancer deux campagnes. Nous y revenons.
Retour des jauges, fermeture des écoles ou rien de tout cela. Nous verrons les options du gouvernement pour faire face à la cinquième vague.
Une voiture électrique pour dompter la glace du Trophée Andros. Romain Grosjean, CSS cet après-midi à Val Thorens.
Dans la prochaine demi-heure, Florence Comte, présidente du syndicat des écoles, pour parler de la crise sanitaire et des scolaires. Et puis, avec Mathieu Alterman, on verra qu'Éric Zemmour n'est pas le seul candidat à utiliser les artistes dans les clips de campagne. Rendez-vous à 7h23. Mais d'abord, la tendance météo, Valérie Darmon.
Pardon, ciel parfaitement bleu depuis... Pardon, excusez-moi, le ciel qui est parfaitement bleu depuis... Non, je ne dors pas, bien sûr que non. Je regarde les cartes météo avec ces vigilances avalanches qui évoluent sur les Pyrénées et ces grosses quantités de neige qui sont attendues sur les reliefs. Le ciel qui est parfaitement bleu, je commence par les bonnes nouvelles depuis le sud de la Bretagne jusque l'estuaire de la Garonne. Les éclaircies qui gagnent les Charentes et les Pays de la Loire. Il fait beau aussi le long du pourtour méditerranéen et ailleurs le ciel qui est gris, qui est humide et qui est donc très neigeux en montagne.
Allez, on détaille tout cela dans en 7 minutes.
Europe 1.
Éric Zemmour sur scène cet après-midi pour son premier meeting en tant que candidat.
Oui, il devrait y avoir du monde à Villepinte pour y assister, davantage que les 6000 personnes prévues au départ au Zénith de Paris. Le candidat réunit ses troupes derrière son nouveau slogan dévoilé hier, impossible n'est pas français. Victor Chabert, c'est le moment pour lui de se lancer vraiment.
Oui, c'est le véritable lancement de sa campagne. Éric Zemmour doit se présidentialiser, montrer qu'il est désormais aspirant à la fonction suprême et non plus un polémiste. Il a travaillé son discours lui-même, une prise de parole assez longue, une heure environ. Il lancera également son parti et présentera ses soutiens. Pour l'instant, le plus connu officialisé par le candidat est le président de VIA, Jean-Frédéric Poisson. Ce meeting d'Éric Zemmour est aussi stratégique car il tombe le lendemain de la victoire de Valérie Pécresse au Congrès des Républicains et le néo-candidat a décidé d'ouvertement draguer ceux qui ont voté Éric Ciotti, qu'il estime proche de sa ligne politique. Hier, dans une lettre adressée aux militants LR et publiée sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour a rappelé qu'avec le député niçois, il entretient une réelle amitié et a insisté « Je vous attends demain, bientôt ». Ce grand rassemblement sera sous haute surveillance. Plusieurs manifestations sont prévues à Paris, notamment à l'initiative de l'extrême gauche et de militants antifascistes.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1 et à l'instar d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, elle aussi cherche à récupérer les 31% des militants LR qui ont voté Éric Ciotti plutôt que Valérie Pécresse hier. La candidate investie, qualifiée d'ailleurs de macroniste. On verra ce qu'en pense Florence Portelli. Elle est vice-présidente de la région Île-de-France et porte-parole de Valérie Pécresse et elle sera l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach à 8h de tout à l'heure.
Exactement, nouvel horaire pour Jean-Pierre Lecabache. Deux salles, deux ambiances. Jean-Luc Mélenchon tient aussi meeting aujourd'hui.
Oui, le candidat de la France insoumise lance son grand mouvement, l'Union populaire à la défense. Une maison commune, ça nous dit quelque chose, destinée à abriter des personnalités de gauche au-delà de sa propre famille politique.
Faut-il craindre de nouvelles restrictions sanitaires demain? Et si oui, lesquelles?
Ça, on le saura à la fin du Conseil de défense sanitaire autour de Jean Castex, qui se veut rassurant. Pas de couvre-feu, pas de confinement, mais alors quoi? Fermer les écoles comme en Belgique? Confiner les non-vaccinés comme en Allemagne? On voit ça avec Zoé Pallier.
Ni confinement, ni couvre-feu, préconise Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. Mais cela n'exclut pas de nouvelles mesures moins extrêmes pour freiner le brassage des populations.
En plus de la campagne de vaccination qui doit s'accélérer, il faudrait probablement augmenter et inciter fortement le télétravail. Et donc si on dit qu'on incite au télétravail, qu'on modifie les jauges, qu'on fait un effort sur ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait la bulle sanitaire, souvenez-vous, où on disait qu'il faut éviter d'être à plus de 6 jusqu'à 10 lorsqu'on est vacciné, ça je pense que ce sont des mesures qui sont entendables, chacun peut faire un effort. Ces principes vont permettre de limiter le risque de contamination.
Pas question non plus d'imiter la Belgique et de fermer les écoles avant les vacances de Noël pour Benjamin Davido. Il vaut mieux, dit-il, prendre des mesures de plus long terme qui tiendront pendant et après les fêtes de fin d'année, au moins jusqu'au mois de mars prochain.
Les explications de Zoé Pallier pour Europe 1 et on reparle du sujet des scolaires, Thierry, avec votre invité d'ici quelques minutes, Florence Comte, porte-parole des syndicats des écoles.
En attendant, 10 millions de Français ont reçu leur dose de rappel de vaccin.
Oui, annonce d'Olivier Véran qui s'était fixé à cet objectif la semaine dernière. Le ministre de la Santé précise que de nouveaux rendez-vous vont continuer d'ouvrir pour que tout le monde puisse faire un rappel avant le 15 janvier prochain. Et puis, une bonne nouvelle, c'est le compteur final du Téléthon qui affiche près de 74 millions d'euros, nette hausse par rapport au total de 58 millions et quelques l'année dernière, lors de la durée du Téléthon qui était sous confinement.
Lénaïque, on a appris hier soir la disparition de Pierre Rabhi.
Oui, figure de l'agroécologie en France, cofondateur du mouvement Colibri et militant de la cause écologiste. Il était aussi l'auteur de « Vers la sobriété heureuse ». Il s'est éteint des suites d'une hémorragie cérébrale à 83 ans.
Les sports à présent, Romain Grosjean participe au trophée Andros à Val-Thorens avec un véhicule électrique.
Oui, on met du vert partout, y compris dans les sports auto. La preuve avec Romain Grosjean qui roule en Zoé électrique sur cette course sur neige.
C'est vraiment la sensation de liberté de pouvoir glisser, s'amuser, mettre les gaz à fond, patiner, faire toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire en Formule 1. Est-ce que plus de dextérité? Non, mais une dextérité différente, oui. Il y a moins de choses à gérer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les changements de vitesse, l'embrayage, les choses comme ça. En revanche, il faut être plus précis sur le placement de la voiture, puisque n'ayant plus l'embrayage et les changements de rapport, on est limité sur ce qu'on peut faire.
Romain Grosjean au micro, Europe 1 d'Axel May.
Et puis le foot, l'affiche de ce soir, c'est Bordeaux-Lyon.
Oui, les Girondins sont 18e, les Lyonnais 10e, avec deux entraîneurs étrangers de renom qui jouent très gros ce soir, Jean-François Pérez.
Oui, ils sont arrivés en France auréolés d'une carrière prestigieuse. Le Bordelais Vladimir Petkovic, qui avait éliminé la France de l'Euro cet été avec la Suisse, et le Lyonnais Peter Bos, architecte du renouveau de l'Ajax d'Amsterdam. 6 mois après, leur trône vacille. À la tête du deuxième budget de Ligue 1, le Néerlandais est le plus exposé, mais l'entraîneur de l'OL n'a pas dit son dernier mot.
Ce matin, j'ai parlé avec les joueurs. Je dis mon vérité. Je pense que ça c'était clair. Dans cette saison, il y a des moments difficiles pour toutes les équipes. Comme coach, je suis là pour aider l'équipe.
Pour l'instant, Boss est soutenu par ses dirigeants. C'est moins évident pour Petkovic. Le Suisse est plombé par sa défense. 37 buts encaissés, la pire de Ligue 1. On pourrait dire que l'effectif cosmopolite, avec 12 nationalités, n'aide pas à la cohésion. Mais le milieu de terrain Yacine Adli balaye l'argument.
Il ne faut pas se cacher derrière des excuses. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. La langue du football, elle est très facile. Hein. Right, left, droite, gauche, izquierda, derecha, tout le monde comprend ça. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on soit plus en accord entre nous aussi.
Plus facile à dire qu'à faire. À Bordeaux, ils sont de plus en plus nombreux à craindre la relégation en Ligue 2.
Et Bordeaux-Lyon, c'est le match à suivre ce soir sur Europe 1 à 20h45. Hier, Paris a concédé le nul à Lens 1 partout et son dauphin marseillais a perdu au Vélodrome face à Brest 2-1.
Et le match sera à suivre bien sûr sur Europe 1 avec Lionel Rosso. Merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La météo. Valérie Darmondi. Donc on va saluer Fabrice. Fabrice qui nous envoie une photo sur Twitter de Montmartre à l'instant, illuminé, mais vide, complètement vide. Il fait très froid, visiblement, il vient de faire son footing. Voilà, bon courage à lui. Valérie, on va dire qu'aujourd'hui c'est un temps maussade, sauf entre Caen et Bordeaux. On regarde peut-être la semaine ?
Avec plaisir. Alors, on commence évidemment par ce lundi, hein, c'est logique, avec un temps assez calme mais gris, sans doute la journée la plus agréable de la semaine. Hein, bon. Tout de même, notez-le sur vos tablettes.
Ouais.
C'est donc ce lundi
sortir,
avec...
C'est mardi,
voilà. Non, c'est demain qu'on sort, puisque c'est la journée la plus agréable. Ah, j'ai pas dit la plus désagréable.
Pardonnez-moi, j'ai noté. Lundi, voilà. D'accord. Lundi, je sors. Mardi, ensuite.
Ensuite, on écoute Europe 1 en restant à la maison. Avec donc demain, quand même, quelques averses de neige, toujours dans l'Est. L'arrivée d'une perturbation pluvieuse par l'Ouest et partout ailleurs, le temps qui s'annonce nuageux et plutôt sec.
Ouais.
La suite de la semaine,
donc,
vous voulez ?
Oui,
voilà.
Exactement. Dites-moi, allez-y.
Alors, on a une dépression qui traverse la France de nouveau. Le risque de vent violent qui est élevé dans l'ouest avec des rafales tempétueuses en bord de mer, mais à surveiller aussi de manière plus ponctuelle dans les terres. Vendredi, la situation qui restera très agitée côté ciel, sans vent, mais avec beaucoup de pluie pour cette semaine. Des cumuls de pluie moyens qui seront généralement compris entre 20 et 50 mm sur le pays. Et j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, il y aura aussi de très grosses rafales de vent entre 110 et 120 sur les côtes landaises.
Valérie, la neige, elle va continuer de tomber ?
Alors là, très très bonne nouvelle pour les stations qui ouvrent ce week-end. Elle continue de tomber abondamment en montagne à partir de 700 à 1200 mètres selon les massifs. De lundi à vendredi prochain, les hauteurs de neige fraîche qui atteindront 50 cm à 1 mètre vers 1300 mètres. Dans les Pyrénées, des hauteurs de 2 mètres qui sont attendues au-dessus de 1800 mètres et le risque d'avalanche, bien sûr, qui sera maintenu.
Alors, on regarde les maximales maintenant.
Alors, elles se situent, comme ce week-end pour cette semaine, 2 à 3 degrés en dessous des moyennes de saison, avec 7 à 10 degrés du nord au sud et des pointes vers 12-13 près de la Méditerranée, ressenties encore plus froid par contre à cause du vent et des pluies. Ça veut dire que vous retranchez à peu près 5 degrés supplémentaires en dessous des valeurs normales de saison. Hein.
Okay.
C'est pour vous dire comment il va faire froid. Aujourd'hui, entre 4 à Gap et 17 à Nice.
Merci beaucoup Valérie, on se donne rendez-vous bien sûr... À 7h30, à suivre l'interview actuelle avec un nouveau conseil sanitaire demain matin. Y aura-t-il de nouvelles mesures pour l'école ? On va faire le point sur le nouveau protocole justement dans ces écoles avec la porte-parole du syndicat, des directrices et directeurs d'école, Florence Comte. Ne quittez pas, on revient sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Les écoles étendues à tout le pays, désormais vous le savez. Bonjour Florence Comte.
Bonjour.
Porte-parole du syndicat des directrices et directeurs d'école. Vous dirigez d'ailleurs vous-même une école élémentaire à Puget, dans le Var. Vous avez combien de classes fermées actuellement ?
Alors, il y a eu toute la semaine dernière qui vient de s'écouler 3 classes complètement fermées. Qui était avec les mesures de l'ancien protocole, donc lors duquel un élève positif déclenchait une fermeture de classe. Et j'ai eu durant la semaine, à tour de rôle, 6 classes concernées par le nouveau protocole, c'est-à-dire concernées par un test avant le retour à l'école pour les élèves qui étaient négatifs.
Vous, madame, vous constatez que les cas explosent chez les enfants ou pas ?
Complètement.
Ah oui ?
Complètement. Depuis vendredi, donc il y a une dizaine de jours, on en est à 12 cas. Alors qu'on avait été vraiment très épargnés depuis le début de la crise, là, ça explose vraiment dans certaines écoles, dans de nombreuses écoles, je pense.
Il faut rappeler 9000 classes qui sont fermées actuellement en France. On parle de ce nouveau variant Omicron. Il y a des cas suspects dans votre secteur, dans la région ?
Je ne crois pas. En tout cas, je n'en ai pas connaissance.
Ce nouveau protocole, vous l'avez donc appliqué cette semaine. Il consiste en quoi précisément ? Racontez-nous.
Alors, dès qu'il y a un cas positif chez un élève, nous devons avertir immédiatement les parents, que ce soit le mercredi, que ce soit le week-end. Et nous n'acceptons pour le retour à l'école que les élèves qui ont été testés négatifs.
Ouais.
Les élèves dont les parents refusent le test sont isolés 7 jours à la maison. Et dans ce nouveau protocole, il n'y a plus le test à J7, donc 7 jours après le dernier contact, ce qui pose de nombreux soucis.
Lesquels ?
Alors sur le terrain, on s'aperçoit qu'en fait, les AJ0, aucun autre élève n'est positif.
Ouais.
Les élèves reviennent tous testés négatifs, forcément, puisque le temps d'incubation n'a pas été encore effectué. Mais certains élèves ont de nouveau été testés à J5 à peu près, et il y en a eu plusieurs qui étaient de nouveau positifs.
Mais tous ces tests, en plus, ça pose quand même la question des labos. Les laboratoires doivent suivre, c'est quand même, ça doit être un... compliqué pour les laboratoires.
Alors, les laboratoires, le Var faisait partie des départements test avec 9 autres départements depuis octobre, dans lesquels on expérimentait En tout cas, c'était comme ça sur le papier. La non-fermeture systématique des classes, mais le test de dépistage massif à l'école par les laboratoires en test salivaire. Dans les faits, il s'est avéré que les laboratoires ne pouvaient pas du tout suivre, ni au niveau du temps, ni niveau du matériel. Donc maintenant, depuis le nouveau protocole, donc depuis lundi 29 novembre, ce sont les parents qui doivent, s'il n'y a pas de test le jour même ou le lendemain à l'école, ce sont les parents qui doivent aller faire tester leurs enfants. Mais les laboratoires sont aussi surchargés. Et par exemple, dans la commune dans laquelle j'enseigne, la mairie a mis en place des permanences d'infirmières libérales qui, au lieu de se déplacer à domicile, tiennent une permanence pour tester notamment les enfants, mais pas que, dans une salle dédiée.
Et justement, les parents, ils disent quoi alors ?
Alors, les parents, à juste titre, ne comprennent plus.
Bien sûr.
Ils ne comprennent plus, on les met au pied levé. Par exemple, jeudi soir, j'ai envoyé un mail, après un mail d'une famille me disant que leur enfant était positif. Donc, j'en ai pris connaissance à 22h30. Oui. Donc, j'ai envoyé un mail à 23h aux parents en leur disant que leur enfant ne pourrait pas être accepté le lendemain matin à l'école. Alors, il y avait deux solutions. Soit on les prenait vendredi matin, les enfants, et en fait, dans la demi-heure, il fallait que les parents reviennent les chercher. Donc avec mes collègues, on s'est dit c'est quand même plus simple de leur mettre un mail. Et la maîtresse de la classe, vendredi matin, envoyait un SMS à tous les parents des élèves pour bien vérifier qu'ils avaient eu le mail.
Ouais. Je rappelle que vous êtes Florence Comte, porte-parole du syndicat des directrices et directeurs d'école. Il y aura un nouveau conseil sanitaire demain lundi. Oui. Vous espérez quoi pour l'école ?
Le conseil sanitaire, c'est vrai qu'on est assez partagés nous aussi, parce qu'il se murmure qu'il pourrait y avoir une fermeture des écoles une semaine avant les vacances de Noël. Alors pour sauver Noël, pour sauver les fêtes, pour mettre moins en danger peut-être les familles des élèves, je ne sais pas. Alors si ça pouvait solutionner tout, pourquoi pas, sauf qu'en fait rien ne prouve qu'en janvier ça ne serait pas la même chose. Donc en fait on reste relativement partagés, parce que certaines écoles sont vraiment totalement épargnées.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est plus qu'un murmure, hein. C'est Olivier Véran qui parlait clairement vendredi matin d'une fermeture anticipée des classes et de l'école justement pour vite aller sur les vacances de Noël.
C'est ça.
Alors ce serait un bon point selon vous ou pas ?
Je pense que ça serait peut-être un bon point en effet, mais quand on a fermé les écoles alors longtemps lors du premier confinement, puis une semaine avant les vacances d'avril l'année dernière, le souci c'est qu'on a quand même gardé les enfants des personnels soignants et prioritaires. Ce qui est peut-être normal aussi, sauf que du coup on a quand même continué à brasser les élèves, on en a vraiment beaucoup accueilli dans mon école l'année dernière. Et bon, du coup si c'était un vrai isolement pour toutes les familles, ce serait peut-être une bonne idée. Si on continue la semaine écoulée dans mon école, des parents qui ne savaient pas quoi faire de leurs enfants parce qu'ils devaient travailler, les ont confiés à des amis. Et du coup, ils sont devenus positifs, ils n'ont été qu'à contact d'enfants de la famille. Donc c'est compliqué.
Florence Comte du syndicat des directrices et directeurs d'école. Bon courage, merci à vous, bon dimanche madame.
Merci à vous, bon dimanche aussi, au revoir.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h20, dimanche 5 décembre, l'Info Express, Lénaïque Monnier.
Valérie Pécresse, candidate LR pour la présidentielle, dit ce matin dans le JDD vouloir tout réparer en France. Elle se dit également capable de battre Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle, appelle les électeurs LR malheureux de la rejoindre. Autrement dit, les 31% qui avaient voté pour Éric Ciotti. Même appel du pied d'Éric Zemmour, le candidat qui sera à Villepinte aujourd'hui pour son premier meeting en tant que candidat. Jean-Luc Mélenchon, lui, est à la Défense pour faire l'union par la base. Nouvelle journée de mobilisation pour la défense de l'hôpital public hier partout en France. Malgré les mesures prises l'année dernière pour améliorer la situation dans les hôpitaux en première ligne pendant la pandémie, des soignants qui dénonçaient encore les conditions de travail et de soins. En parallèle, 10 millions de Français ont reçu leur dose de rappel. Olivier Véran l'a annoncé hier, il s'était fixé cet objectif la semaine dernière. Le ministre précise que de nouveaux rendez-vous vont continuer d'ouvrir chaque jour pour que toutes les personnes puissent se faire avoir le rappel avant le 15 janvier. Le compteur du Téléthon atteint les 74 millions d'euros de promesses de dons. 35e édition qui a renoué avec le terrain après la précédente, confinée pour cause de Covid. Voilà ce qu'ont annoncé les organisateurs. Et puis en rugby, le Stade Toulousain n'est plus le premier du top 14. Bordeaux-Bègles s'est emparé du fauteuil de leader en remportant son duel contre le double champion en titre, 17-7. C'était la 12e journée hier.
Merci Lénaïque. Dans un instant, Mathieu Alterman pose son œil aiguisé sur notre époque. Premier meeting d'Éric Zemmour en début d'après-midi. On a beaucoup parlé cette semaine de sa vidéo de candidature. Comment les candidats ont utilisé les musiques ? Réponse dans un instant. A tout de suite. Merci de commencer la journée avec nous sur Europe 1.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
Juste après 7h20, le dimanche, il porte son œil aiguisé sur notre époque. Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour.
Alors on l'a vu cette semaine, Éric Zemmour utilise des œuvres d'icônes de la pop culture dans son clip d'annonce de candidat. Il faut dire Mathieu que les liens étroits entre candidats et chansons populaires, ben c'est pas nouveau finalement.
Maintenant, un nouveau scandale entoure le polémiste. Donc l'utilisation d'images d'artistes telles Barbara, d'extraits de films tels Les choses de la vie de Claude Sautet, le tout sur la 7e symphonie de Beethoven, sans autorisation au préalable. Alors, en ce qui concerne Beethoven, il est mort, hein, je pense que vous le savez, et son œuvre est tombée depuis longtemps dans le domaine public, donc utilisable par tous. Le chanteur Woodkid est en revanche bien vivant, et l'usage de sa chanson sans autorisation peut poser un problème, encore qu'il a sûrement été déclaré à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs musicaux, et qu'il n'y a pas d'échange commercial dans le médium qu'il utilise. Dans le cas de courts extraits de films, le droit de citation est en général permis sur un extrait très bref. On peut donc penser qu'il y aura un arrangement entre le QG de campagne d'Éric Zemmour et la société de production détentrice des droits. Pour Barbara, c'est plus compliqué. Dans le cadre d'une personne décédée, le droit à l'image ne se justifie plus, surtout si le photographe n'est plus de ce monde non plus. Seul le droit moral des héritiers peut éventuellement bloquer l'utilisation. Il demeure cependant un vrai sujet, la fascination des candidats à la présidence pour les chansons à succès, et ce, dans le monde entier.
Mais finalement, Mathieu, vous nous le dites, Éric Zemmour ne serait pas le premier.
Et non, c'est une vieille histoire. Souvenons-nous de la campagne américaine de 1984, quand Ronald Reagan ponctuait ses meetings du Tony Truant, Born in the USA, de Bruce Springsteen, à fond dans les enceintes devant des militants survoltés.
Oh, c'était bien ça.
Oui, mais aucune autorisation ne fut demandée au boss du rock. Ben oui, aucune, car les chansons, une fois publiées, appartiennent à tout le monde dès le moment où les droits d'auteur sont payés. Bruce Springsteen répliqua quand même « Vous savez, mes paroles peuvent être écoutées », car sa chanson était une virulente critique de son pays, et notamment de sa gestion post-Vietnam.
Dommage.
Mais oui, mais les candidats, eux, ils s'en moquent. Son tube sera réutilisé avec patriotisme par George Bush Senior dans la campagne présidentielle de 1988. Quant à Donald Trump, on n'explique toujours pas sa fascination pour Village People et YMCA diffusé à chaque apparition.
Ouais, souvent quand même, les candidats, Mathieu, demandent une autorisation et collaborent, on va dire, avec les artistes.
Tout à fait, mais étrangement, ça marche moins bien. En 1995, Lionel Jospin demande à Jean-Jacques Goldman l'utilisation du morceau « Il changeait la vie ». Mais patatras, Lionel perd au deuxième tour face à Jacques Chirac et changera surtout de travail. Rebelote en 2002, le candidat socialiste demande à Jean-Jacques Goldman la permission d'utiliser son succès ensemble, mais n'est pas qualifié pour le deuxième tour. Et encore une fois, Jacques Chirac l'emporte. Ce dernier, pour la campagne de 1988, donnait des meetings avec Johnny Hallyday qui s'époumonnait sur « On a tous quelque chose en nous » de Jacques Chirac, provoquant la fureur de l'auteur de la chanson originale Michel Berger, « On a tous en nous quelque chose de Tennessee », qui lui, au même moment, soutenait le candidat adverse François Mitterrand. Finalement, derrière les empoignades politiques, c'était la guerre du top 50. Finalement, le plus drôle sur l'utilisation de la 7e symphonie de Beethoven par Éric Zemmour, ce n'est pas que l'œuvre fut créée par le génie allemand contre Napoléon, donc contre la France, mais qu'elle fut reprise en 1970 par notre Johnny Hallyday national sur un poème de Philippe Labro que voici.
Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors.
Bon, ça affiche un peu les jetons, je l'accorde. La morale de ces histoires, ce qui fascine les vedettes de la politique, ce ne sont pas les stars de la chanson, mais le lien d'amour que les peuples ont avec leurs œuvres et qui resteront quand les discours politiques auront été oubliés.
La fable moderne de Mathieu Alterman, le samedi et le dimanche, est à 7h20 sur Europe 1. Toute l'info dans un instant, juste après Louane, pour vous accompagner. Bon réveil.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Il est 7h30 sur Europe 1 et le journal vous est présenté par Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon lance aujourd'hui son grand mouvement, l'Union Populaire. Les précisions dans un instant d'Alexis de La Fontaine.
Autre sujet développé dans ce journal, le malaise des magistrats. Ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer les mauvaises conditions de travail et le manque de moyens de la justice.
Et puis nous assisterons aux répétitions du spectacle Johnny Symphonic Tour à la fin de ce journal.
Au sommaire de la prochaine demi-heure à 7h40, l'édito du JDD DDD du directeur de la rédaction Cyril Petit sur Valérie Pécresse. Et puis à 7h50, ça vous concerne. On va s'intéresser aux normes des jouets de Noël. Mais d'abord, bien sûr, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Eh bien, des chutes de neige sur tous les reliefs, une vigilance avalanche pour les Pyrénées, des giboulées en plaine, un vent du nord sensible rendant le froid désagréable, des rafales entre 110 et 120 sur les côtes landaises.
Et on développe tout cela dans 7 minutes maintenant. Premier meeting de campagne pour Jean-Luc Mélenchon.
Le candidat à la présidentielle donne rendez-vous aujourd'hui à ses partisans à la Défense. Le but, lancer son grand mouvement L'Union Populaire, une maison commune destinée à abriter des personnalités de gauche au-delà de sa propre famille politique. Alexis de La Fontaine, bonjour.
Oui, sa mission aujourd'hui, c'est une démonstration de force. Le candidat insoumis assume. Ah. On veut montrer qu'on est là, il n'y a pas que Zemmour. Faisant allusion au meeting de son opposant qui se tient à seulement 20 km. Mais le tribun de gauche ne s'en prend pas seulement à la droite. Il veut démontrer que dans son camp, seul lui est capable de réunir plus de 3000 personnes. Et il veut le faire savoir. Son entourage attaque. Hidalgo n'a pas réussi à réunir plus de 100 personnes dès sa tournée en province. Et Jadot n'a pas encore organisé un seul meeting. La stratégie de chacun à gauche est claire. Pas de primaire, mais les sondages pour départager les candidats. Mélenchon, lui, en est bien conscient. Aujourd'hui, à 10%, il doit rester en tête à gauche pour capter le vote utile lors du premier tour de la présidentielle. Cette performance, il l'a déjà réussi en 2017. Il avait alors rassemblé 20% des votants. Trop insuffisant à l'époque pour se qualifier au second tour, mais le leader des Insoumis en est persuadé. Je cite, « C'est un trou de souris, mais ce sera suffisant en 2022 ».
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1.
Les militants des Républicains ont choisi leur candidat.
C'est Valérie Pécresse qui les représentera à l'élection présidentielle de 2022. Elle a recueilli près de 61% des voix contre 39% pour Éric Ciotti. La présidente du Conseil régional d'Île-de-France a immédiatement réagi en déclarant que la droite est de retour. Son objectif maintenant est de rassembler son camp.
Et notez-le bien, la porte-parole de Valérie Pécresse, Florence Portelli, sera l'invité politique de Jean-Pierre Elkabbach dans une demi-heure. À peine la désignation de Valérie Pécresse, eh bien Éric Zemmour et Marine Le Pen lancent un appel aux adhérents LR.
Les deux candidats tentent d'attirer les militants séduits par Éric Ciotti. Marine Le Pen a appelé les électeurs déçus à la rejoindre et qualifié Valérie Pécresse de macroniste. De son côté, Éric Zemmour les invite à participer à son meeting aujourd'hui à Villepinte.
Le mouvement de grogne se poursuit dans les rangs des magistrats.
Une tribune signée par plus de 3000 d'entre eux dans le journal Le Monde de lundi dénonce leurs conditions de travail et le manque de moyens de la justice. Les signataires de cette tribune ne cessent aujourd'hui d'affluer. Ils sont plus de 5000 aujourd'hui à l'avoir signé sur 9000 magistrats en France. Une première pour cette profession souvent silencieuse qui s'assimile à une véritable révolte, David Montagnier.
Oui, à l'origine de cette tribune, le suicide à la fin du mois d'août d'une jeune magistrate dans le Nord, épuisée par ses conditions de travail. Même si une enquête interne est en cours, l'événement a marqué les esprits. Les magistrats estiment qu'ils ne sont plus en mesure aujourd'hui de traiter correctement les conflits des citoyens, comme le souligne Cécile Mamelin, elle est vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats.
Nous avons des stocks de dossiers, donc nous ne pouvons pas laisser les parties parler autant qu'elles le voudraient. Le justiciable ne peut pas avoir un temps de parole aussi long qu'il le souhaiterait. En France, 25% des audiences se poursuivent au-delà de 21h.
Ce mouvement inquiète l'exécutif. En plein état général de la justice lancé par le chef de l'État le 18 octobre, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a reçu le 26 novembre une trentaine de signataires de la tribune. Un entretien qui a duré plus de 3 heures mais qui n'a pas apaisé le désarroi des magistrats. Malgré la hausse du budget de la justice de 8% et l'embauche de 2000 assistants pour les soulager, le compte n'y est toujours pas pour les signataires. Difficile pour le garde des Sceaux de leur donner des gages dans l'immédiat. Du côté du ministère, on nous rappelle en effet que le budget de la justice pour 2022 est déjà bouclé.
David Montagnier, autre mouvement de protestation, celui des soignants.
Ils ont manifesté leur colère hier à Paris. Objectif, demander plus de moyens, dénoncer leurs conditions de travail, défendre l'hôpital public. Une délégation a été reçue par un conseiller ministériel.
La révolution VTC fête ses 10 ans.
La plateforme Uber débarquait en 2011 en France. Elle proposait aux clients de réserver une course via une application. Cela paraît totalement banal aujourd'hui, mais à l'époque, cela a été une révolution, notamment pour les taxis. Souvent critiquée, la plateforme a malgré tout changé la manière de se déplacer en ville et a aussi permis à des chauffeurs de trouver une nouvelle clientèle. Rencontre avec l'un des pionniers d'Uber à Paris.
En 2011, Zaki commence à travailler comme chauffeur privé. Et dans son entreprise, Service Prestige, arrivent quelques Américains qui cherchent des volontaires pour tester un nouveau service. Parmi eux, un certain Travis Kalinic, cofondateur d'Uber. Et très vite, Zaki se rend compte que cette application va bouleverser son métier.
J'ai été un des tout premiers chauffeurs Uber, donc on nous a expliqué comment utiliser l'application. Et ensuite, on l'a testé sur le terrain. Je me souviens que ma première course, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, dans le sens où, par le biais du téléphone, on reçoit une demande. Vous acceptez la demande et là, vous voyez apparaître sur l'application l'itinéraire. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider, quoi. Et c'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque.
10 ans plus tard, Zaki, au volant de sa berline premium, travaille toujours pour Uber. Il a également constitué sa propre clientèle. En parallèle, il se satisfait de voir les relations avec les taxis plutôt apaisées, même si tout n'est évidemment pas encore idéal. Uber fait aussi des mécontents. Plus de 500 chauffeurs viennent même d'annoncer qu'ils vont lancer leur propre plateforme.
Aurélien Fleureau du service économique d'Europe 1.
Allez, on termine en musique. On part à la découverte du spectacle Johnny Symphonic Tour.
Une tournée inédite des chansons du Taulier avec un chœur d'une quarantaine d'amateurs a été montée par le chef d'orchestre Yvan Cassard. Marie Jiquel a assisté à l'une des répétitions.
Il fallait au moins un chœur de 40 chanteurs pour égaler la voix puissante de Johnny. Ses volontaires, recrutés dans chaque ville de la tournée, ont réussi le casting et doivent désormais honorer sur scène les chansons de leur idole. Parmi eux, Damien et Corinne, 30 ans les séparent, Johnny les réunit.
Le concert hommage à Johnny, ça m'a pas mal intéressé parce que j'ai une famille très fan justement de Johnny, donc j'ai bercé là-dedans depuis tout petit.
Plus on chante de Johnny, plus on se rend compte de la difficulté des chansons. Vivre pour le meilleur, par exemple, ou L'envie sont des chansons qui demandent beaucoup de tonus.
À la baguette, Yvan Cassard, la caution musique classique de Johnny, le chef d'orchestre a monté ce projet en réarrangeant les tubes du Taulier pour les mettre au diapason d'un orchestre symphonique.
Il me parlait beaucoup de ça, et du cinéma, de son goût pour ça et son goût pour l'orchestre à sa manière. La puissance qu'il adorait. Donc ce projet, c'est juste un hommage.
Du Johnny en classique, comme une impression d'entendre de la musique sacrée.
La tournée débutera le 20 mai prochain à Épernay, les 8 et 9 juin, à la salle Playel
et
de Paris.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui le 4e anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday. C'était le journal de Clément Gouiz. Merci beaucoup. Alors, le temps de votre dimanche, Valérie Darmon. D'abord, on salue, tiens, Antoine-Pierre Gérard, hein, qui nous écoute en Isère. Temps pluvieux, nous dit-il sur Twitter, 2 degrés. Restez bien sûr au chaud. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas folichon, hein, le temps. Hein.
Effectivement, et beaucoup de neige en Isère, mais aussi sur tous les massifs, hein, avec une vigilance avalanche pour les Pyrénées. Des Ardennes à la Bourgogne, vous passez la journée sous un ciel chargé, avec quelques giboulées ou averses de neige aussi, blanchissant le sol des 300 à 500 mètres d'altitude.
Sur le Nord, Valérie.
Des Hauts-de-France à la Normandie et de la Champagne au centre Val-de-Loire en passant par Paris, le ciel est très menaçant toute la journée, mais pas forcément très pluvieux. En revanche, le ressenti est glacial.
Et dans le sud-ouest ?
Eh bien, du bassin aquitain au midi toulousain jusqu'au piémont pyrénéen, les averses sont orageuses sous un vent du nord très froid qui souffle sur les Landes jusqu'à 110 km/h. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les éclaircies du sud de la Bretagne au Val-de-Loire jusqu'au Poitou et aux Charentes.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Restez avec nous, surtout Valérie, ça vous concerne, vous et Roland Pérez pour toutes nos questions de vie quotidienne. Ce sera dans quelques minutes, juste après l'édito du JDD. Et justement, le JDD qui fait sa une ce matin sur Valérie Pécresse. Avec nous, le patron de la rédaction. Bonjour Cyril Petit. Valérie Pécresse, désignée hier candidate LR à la présidentielle.
Bonjour Thierry. Oui, on découvre aussi cette photo réalisée par Alvaro Canovas pour le JDD. On voit Valérie Pécresse à 14h24, très précisément quand elle sort du bureau de Christian Jacob où elle vient d'apprendre sa victoire. Elle est souriante, évidemment. Et cette image, elle est accompagnée d'un grand entretien que la candidate nous a accordé au JDD. Une chose est sûre, elle est déterminée. Je la cite, oui, je peux battre Emmanuel Macron. D'ailleurs, elle ne ménage pas le président. Hein. Elle dit, il a cramé la caisse et décidé de léguer aux générations futures tous les problèmes de la France, dette, déficit de la balance commerciale, impôts, services publics à bout de souffle, crise d'autorité chronique. La France est abîmée, clivée, il faut tout réparer.
Cyril, elle répond également à Éric Zemmour qui appelle les électeurs d'Éric Ciotti à le rejoindre. Hein.
Oui, et Valérie Pécresse, elle est convaincue que cet appel n'aura pas d'effet. Hein. Elle dit au JDD, c'est peine perdue, la droite est debout, elle est de retour. D'ailleurs, Valérie Pécresse qualifie le candidat d'extrême droite de marchand de peur qui n'apporte pas de solution. Et puis dans cet entretien, on la sent, Valérie Pécresse, très ambitieuse et très combative. Elle attaque une autre adversaire, Marine Le Pen, qu'elle qualifie d'héritière, avant de parler du fait qu'elle est la première femme candidate à la présidentielle dans le camp de la droite républicaine. Je cite Valérie Pécresse au JDD, le plafond de verre bercé, brisé. C'est pour moi un honneur et une immense responsabilité. Je serai à la hauteur.
Alors le JDD publie une autre interview exclusive ce matin, celle du deuxième homme de ce congrès, Éric Ciotti.
Oui, Éric Ciotti qui est arrivé deuxième avec 40%, hein, le député des Alpes-Maritimes. Et il compte bien peser dans cette campagne, hein, Thierry. Alors certes, il indique qu'il sera aux côtés de Valérie Pécresse dans l'unité, mais il lance aussi le message suivant. Hein, il dit « La campagne présidentielle se gagnera à droite, c'est cette ligne que je vais tenir. » Et il se réjouit et taquin, hein, je le cite encore une fois, « Même si je ne gagne pas ce congrès, mes idées ont triomphé. »
Merci beaucoup Cyril Petit, directeur de la rédaction du JDD. Et puis, notez deux rendez-vous importants ce matin sur l'antenne. 8h03, Jean-Pierre Elkabbach recevra Florence Portelli, porte-parole de Valérie Pécresse. Et puis à 10h, le grand rendez-vous européen CNews et Écho, Sonia Mabrouk recevra le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Dans un instant, tous les dimanches matin à 7h-ci, on va apprendre à mieux lire les étiquettes, à se défendre en cas de pépin, à éviter les arnaques. Ça vous concerne, Valérie Darmon et Roland Pérez nous rejoignent. À tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous, informez-vous avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Nouveau rendez-vous, ce sera tous les dimanches matin aux alentours comme ça de 8h moins le quart. Ça vous concerne, on va apprendre à mieux lire les étiquettes, l'envers du décor de la consommation, mieux comprendre les lois, la réglementation avec Valérie Darmon et Maître Roland Pérez. Et Dieu sait que je suis content de vous retrouver tous les deux.
Oh, nous aussi, nous bonjour aussi. Thierry, bonjour Valérie.
Allez, on est à 3 semaines, bien sûr, de Noël. C'est le moment où il faut aller en magasin pour choisir les jouets. 212 millions, c'est le nombre de jouets vendus l'an dernier en France. Pour ce Noël, les Français devraient dépenser en moyenne 240 euros de cadeaux. Ils sont nombreux à avoir commencé depuis un mois leur achat de Noël par peur, hein, parfois de la pénurie. Et toujours avec la même question répétitive, comment bien choisir les jouets ? Dossier signé Valérie Darmon. Alors, qu'est-ce qu'on fait Valérie ?
Eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà cette année, mention spéciale pour le Made in France. Ouais. Deux raisons. La première, un vrai choix pour chacun d'entre nous. Et surtout la seconde qui est beaucoup plus terre à terre. 20% des références manquent déjà à cause des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Plastique, bois, papier, carton, puces électroniques, engorgement dans le fret maritime aussi. Donc les produits importés d'Asie seront moins nombreux sous nos sapins. C'est pourquoi les Français s'y sont pris très très tôt cette année.
Fait en France ou ailleurs, de toute façon Valérie, il y a des normes à connaître dès qu'on achète les jouets. Hein.
Effectivement, hein, sachant que la première protection, de toute façon, tous les parents le savent, hein, eh bien c'est la vigilance des parents. Mais on a quand même la loi qui impose pour les jouets neufs, en tout cas, le marquage CE et NF et une notice d'utilisation en français. Il est aussi recommandé de lire attentivement les avertissements sur les emballages, d'acheter vos jouets dans des magasins plutôt connus, ne pas forcément chercher la bonne affaire, tester le jouet et surtout bien vérifier que tous les éléments sont bien attachés. Alors, sans psychoter, soyez surtout vigilants pour les jouets en mousse ou ceux à poils, pas toujours très résistants.
Chaque année, il y a des drames. Hein.
Effectivement, et ils sont générateurs d'un risque d'absorption et d'étouffement hein, pour les jeunes enfants. Donc là, vraiment, tester, j'ai envie de vous dire, tirer sur les poils, tirer sur les yeux, et puis même chose pour les coutures des peluches.
Donc ça, c'est pour les jouets neufs, mais pour les jouets d'occasion, Valérie ?
Alors, on a toujours le même marquage, hein, CE ou NF, la notice d'origine qui est la bienvenue, évidemment. Il est recommandé d'inspecter minutieusement le jouet de seconde main. C'est la grande tendance pour tout cette année. Et aussi, on l'a tous fait, éviter de donner à un enfant un jouet bricolé ou cassé. Dans les deux cas, faites aussi attention à la garantie légale de conformité. Et là, je me tourne vers Roland. Que dit la loi dans ce domaine, Roland ?
Alors, la loi est très claire. Elle est d'ailleurs comme pour tous les objets que vous achetez en grande distribution. Il y a une garantie légale de conformité qui est de 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut que l'objet puisse fonctionner. Par exemple, une poupée, si on l'a achetée parce qu'elle parle ou elle chante, il faut qu'elle parle et elle chante véritablement. Ouais. Le circuit du train, il faut que le train puisse rouler, puisse s'arrêter comme ça est prévu avec la télécommande. Si c'est un mini ordinateur vocal, il faut qu'il puisse marcher. Donc, il faut qu'il puisse répondre à la prévisibilité de ce qu'on attend de ce jouet. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a un dysfonctionnement, vous avez 2 ans pour ramener ce jouet et surtout vous faire rembourser. Même chose d'ailleurs pour les biens d'occasion, vous en parliez Valérie, ces biens d'occasion bénéficiaient eux d'une garantie à partir de son achat de 6 mois.
Et que disent ces normes en matière de jouets ?
Alors les normes en matière de jouets disent que d'ailleurs les jouets, toute la réglementation s'applique à des jouets qui sont destinés à des jeunes et des enfants de moins de 14 ans.
D'accord.
Donc là, toute la réglementation s'applique. Et puis, il faut faire attention effectivement à des normes, énorme NF, énorme marquage CE, sur lequel je pense Valérie va revenir dans quelques instants. Il faut savoir que le fabricant doit analyser les dangers du produit qu'il va mettre dans le commerce. Donc les dangers chimiques, physiques, mécaniques, électriques, l'inflammabilité éventuellement du produit, l'exposition potentielle à ces dangers. Et donc ces normes NF et marquage CE sont là pour sécuriser et rassurer celui qui va acheter ces objets.
Justement, Valérie Darmon, entre la norme CE, la norme NF, comment on fait la différence? Quelles sont les différences d'ailleurs?
Alors, le sigle CE, c'est un marquage et non une certification.
D'accord.
En fait, c'est une simple présomption de conformité qui suppose que le fabricant ou l'importateur s'engage à respecter les exigences de sécurité visées par la norme européenne. C'est comme un autocontrôle.
D'accord.
NF, c'est plus exigeant sur la sécurité et la longévité du produit. Cela signifie que les jouets ont subi, à la demande du fabricant, des tests encore plus sévères que ceux prévus par la norme EN71, c'est celle de la sécurité des jouets, avec des contrôles réguliers qui sont même effectués après la certification du jouet. De toute façon, il faut que les deux normes soient présentes sur l'emballage du produit. Et j'ai une dernière question pour vous, Roland. Qu'est-ce qu'on fait quand même si le jouet est défectueux?
Alors là, il faut savoir que la DGCCRF, la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes, est très, très vigilante. Elle fait des enquêtes sur le terrain. Et n'hésitez pas, si vous avez eu un problème avec un jouet ou si vous estimez que le jouet est vraiment risqué, vous saisissez la DGCCRF. Elle fera une enquête et elle signalera évidemment aux fabricants ce problème.
Restez avec nous, vous avez vu, on essaye ensemble de comprendre comment mieux consommer, mieux lire les étiquettes. Roland, dans un instant, on parle de quoi avec vous?
Tranquillité publique et de maire, les pouvoirs du maire, vous allez voir.
Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
8h-10, l'info express, Clément Gouise.
10 millions de Français ont reçu une dose de rappel. L'objectif que s'était fixé le gouvernement pour cette fin de semaine est donc atteint. Concernant l'épidémie, on note près de 52 000 nouveaux cas de Covid lors des dernières 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés atteint 11 340, dont 2037 en réanimation. Justement, un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu demain. Des nouveaux contrats décrochés par la France en Arabie Saoudite. Airbus va fournir 26 hélicoptères civils et Veolia va gérer les services d'eau potable de Riyad. Annonce faite hier par les deux groupes en marge de la visite du président Emmanuel Macron en Arabie Saoudite. Hausse des promesses de dons du Téléthon. Près de 74 millions d'euros ont été récoltés ce week-end. C'est plus que l'année dernière. 58 millions d'euros avaient été levés. Vous pouvez toujours faire un don au 36-37. Et puis le PSG cale une nouvelle fois en Ligue 1 sur la pelouse de Lens. Match nul hier soir, un partout. Un peu plus tôt, nous avons eu droit au même score entre Lille et Troyes et la belle perf du stade brestois. Victoire 2-1 face à l'OM.
Merci Clément. Dans un instant, on retrouve Valérie et Roland. Ça vous concerne. Deuxième partie, on revient tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne, deuxième partie, nouveau rendez-vous, hein, vous le savez, tous les dimanches avec Valérie Darmon et Roland Pérez qui sont toujours là.
Oui, on est toujours
avec
là.
Plaisir.
Confirme.
Roland, alors après les jouets dont on vient de parler avec Valérie, on va parler avec vous bruit et tranquillité publique. La question, est-ce qu'un maire peut-il tout interdire?
On va voir que non, puisque on sait que le maire est un officier d'état civil. Il marie, il enregistre aussi les décès, hélas.
Ouais.
Il exécute les décisions du conseil municipal, il gère l'argent, vous savez, le patrimoine de la commune.
Bien
il doit veiller aussi, et c'est là tout le centre de notre sujet aujourd'hui, à la tranquillité publique des habitants de sa commune, de par ses fonctions de responsable de la police administrative. Alors c'est la répression, le maintien de l'ordre, la prévention. Ce sont de lourdes tâches et des missions qui lui incombent et qui viennent en quelque sorte d'être contestées par le Conseil d'État.
Alors justement, donnez-nous le contexte de cette affaire.
Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, que vous connaissez peut-être, a pris un arrêté interdisant toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances.
D'accord.
Alors, bon nombre de riverains, c'était plein du bruit engendré par des rassemblements de bandes, visiblement d'amis, en dehors des cafés et lieux publics. Et toute la ville semblait minée par les bruits engendrés.
La réglementation des comportements liés au bruit semble bien effectivement rentrer dans les prérogatives d'un maire. Pourquoi le Conseil d'État, Roland, s'en est-il mêlé?
Car l'arrêté pris était très général et allait jusqu'à prohiber, tenez-vous bien, plus de deux chiens dans les rues de la ville, ou même un groupe de plus de trois personnes.
Ouais.
Alors, converser au téléphone dans la rue ou à deux, écouter de la musique qui serait audible des passants, tout cela n'était plus possible et répréhensible, ce qui au final empoisonnait la vie de tous les citoyens qui souhaitaient vivre au quotidien de façon très normale.
Mais alors, pourquoi avoir pris un tel arrêté?
Alors, en fait, le maire invoquait un accroissement de la délinquance pour justifier la prise d'un tel arrêté et le Conseil d'État mal à rétorquer. Il a purement et simplement annulé les dispositions de cet arrêté de police, beaucoup trop général et contraignant. Le Conseil d'État a estimé à juste titre que la liberté fondamentale d'aller et venir était bafouée.
Mais Roland, le maire n'avait pas limité l'application de ces dispositions à un horaire de nuit, par exemple, et à certains quartiers plus sensibles. Ça aurait peut-être été plus judicieux, non ?
Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Vous touchez là le point sensible de cet arrêté qui prévoyait des interdictions sur une période, certes de 3 mois, dans un premier temps, sans limitation de plage horaire, et donc de jour comme de nuit, et le tout quasiment partout à Saint-Étienne. Autant dire que les habitants de Saint-Étienne ne disaient quasiment plus bonjour en ville, tellement ils craignaient d'être verbalisés. Bon, j'exagère un peu.
Et donc le Conseil d'État a annulé cet arrêté.
Oui, en disant très clairement qu'un maire ne pouvait prendre un arrêté sur un code de tranquillité publique en se fondant sur l'ordre public pour prohiber certains bruits de comportement découlant justement de regroupements de personnes, sans préciser, comme l'a dit Valérie, de plage horaire ou encore l'intensité de tels comportements.
Et pourtant, Roland, en 2019, la loi est venu renforcer les pouvoirs des maires.
Oui, oui, c'est toute la contradiction des lois et des tribunaux, c'est vrai. Il peut imposer des astreintes financières en cas de non-respect de fermeture d'établissements recevant du public, et qui, par le bruit occasionné ou par leur activité, compromettent justement la sécurité des habitants. Mais il est aussi, ne l'oublions pas, officier de police judiciaire. Pour autant, il ne peut pas faire n'importe quoi. Le pouvoir judiciaire vise à ce qu'il ne prenne pas trop de liberté avec sa panoplie de maires. N'est pas Zorro qui veut, mon cher Thierry.
Ça vous concerne, ce sera donc tous les dimanches avec Valérie Darmon et Roland Pérez. Vous voulez les questionner, qu'on aborde un sujet précis. Twitter, hashtag Europe 1. Bon dimanche à vous deux. Un petit clin d'œil, tiens, on parlait des jouets tout à l'heure avec Valérie Darmon. Petit clin d'œil, rien que pour vous. Merci, à dimanche prochain.
À dimanche prochain.
Il faisait zip quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurais jamais. Détonné la première fois quand je l'ai retourné, j'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés. J'ai poussé l'un et l'autre après, puis les ai tirés tous les deux. Mais quand je l'ai reposé par terre, j'ai ouvert de grands yeux. Il faisait zip quand il roulait, pas quand il tournait, quand il marchait.
Le jouet extraordinaire que François Étang. En 1966, petit clin d'œil bien sûr au jouet qu'on évoquait tout à l'heure avec Valérie Darmon. Notez-le bien, le dimanche, 8h moins le quart, ça vous concerne. À suivre, Isabelle Moreau et l'interview de Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit ce matin la porte-parole de Valérie Pécresse, Florence Portelli. À tout de suite.